BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission qui s'occupe de votre culture financière, qui vous aide à devenir meilleur investisseur, que vous ayez déjà un capital ou que vous soyez en train d'essayer de le construire. Nous sommes en direct à la radio, à la télé, sur le web, tous les jours, vous le savez, sur BFM Business, de 10h à midi, mais on est aussi à toute heure de jour et de la nuit en podcast. Nous sommes jeudi 25 avril 2024. Au programme de l'émission, eh bien, ce genre de journée où nous, journalistes économiques, eh bien, nous croulons sur les communiqués de presse, de publications, de résultats. Heureusement, Antoine, depuis Euronext, sera avec nous pour décrypter quelques-uns de ces résultats. Nos deux traders qui sont en train de se connecter pour la séance du jour, pour le match des traders, vont nous aider également un petit peu. À 10h30, votre dose d'économie, comme tous les jours, avec Nicolas, qui va nous donner la recette implacable du combat syndical gagné. Ce sera à 10h30. On vous coach tout savoir sur le CTO, vous savez, ce compte titre ordinaire qui ressemble un peu au petit vilain canard des enveloppes d'investissement. Charlotte Tamer, conseillère en finances personnelles, va vous convaincre qu'il est toujours intéressant, ce CTO. Nous parlons également immobilier aujourd'hui, le match des villes. On opposera deux villes de Méditerranée, Ajaccio d'une part, contre Cannes de l'autre. Où investir quand on cherche à gagner? C'est la séquence immobilier vers 11h15. Le question-réponse du jour, c'est jeudi, nous parlerons private equity. On parlera du secteur des logiciels. Pourquoi est-ce que ce secteur est le chouchou du secteur du PE? Et puis, la campagne déclarative est désormais ouverte depuis le 11 avril. Vous vous occupez de vos impôts en ce moment. Moment d'angoisse pour certains, formalité pour d'autres. Si vous êtes parent, il y a des cases que vous ne devez pas oublier de cocher. Les conseils de notre CGP du jour, Marion Chapelle-Masseau, pour bien remplir votre déclaration en fin d'émission. Au programme, il y a vous, chers auditeurs, auditrices, vous êtes nombreux à nous écouter, notamment en podcast. Merci à vous, vous avez la parole, vous m'écrivez sur LinkedIn en message personnel. Vous pouvez bien sûr nous joindre à l'adresse directe @bfmbusiness.fr. Il est l'heure de rejoindre Antoine du côté de Euronext.
BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision. Votre rendez-vous avec eToro, plateforme de trading et d'investissement. Les traders intelligents choisissent les meilleurs outils.
Cher Antoine, c'est le jour de la marmotte numéro 3. Notre CAC 40 est toujours un petit peu coincé et je dirais même en légère baisse là en milieu de séance matinale avec tous ces résultats qui tombent. Racontez-nous.
Oui, c'est vrai qu'il y a de la pression à la baisse et on a un CAC 40 bon, qui est sur un léger repli, moins 0,31%. On reste quand même largement au-delà des 8000 points, 8066. À noter qu'on a du moins 0,42% pour le DAX à Francfort, l'Eurostock 50, moins 0,33%. Puis on a la tech, le compartiment technologique qui pèse le plus hein, ce matin, étant donné que l'Euronext Tech Leaders est en repli de plus d'1%, hein, moins 1,1%. C'est vrai qu'on est un petit peu perdu au milieu de toutes ces publications d'entreprises, qu'il y a de la volatilité, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'arbitrages qui ont été négatifs dans un premier temps, au tout début de séance, puis finalement les titres ont réduit leurs pertes, se sont même redressés. Pour vous donner une idée, il y a quand même, il y a quand même 20% du CAC 40 hein, qui publie entre hier soir et ce matin. Ça fait beaucoup et il y a beaucoup de choses à prendre en compte. C'est vrai aussi que hier on était resté sur le grand écart entre Meta et Tesla du côté des États-Unis, qu'on restait sur un grand écart sur le CAC 40 Best et Micro qui a signé la plus forte hausse d'hier de Kering qui a déçu. Et là l'échiquier se renverse un petit peu parce que si on regarde bien la plus forte baisse du CAC 40, elle est pour Pernod Ricard qui recule de 2,5% à 141,45 €. Et là aussi, il est question de publication de chiffres d'activité. Il y a Hermès qui a bien impressionné hier, qui finalement est en baisse ce matin, moins 1,6% à 2314 €. Et à la suite, on retrouve LVMH qui recule d'1,36% à 789,30 €. On a ST Micro qui signait la plus forte baisse du jour. Il y a quand même un avertissement sur les ventes pour l'ensemble de l'année, en plus du climat quand même très très compliqué qu'il y a sur l'ensemble des semi-conducteurs. Le titre a signé une forte hausse hier, donc on a eu évidemment une forte correction au début de séance, et puis le titre est en train de tranquilliser rapidement réduire ses pertes. Il est même repassé dans le vert ces dernières minutes avec une progression de 0,54% à 39,43 €. Non, les meilleures performances sont quand même signées par des titres vraiment traditionnels, des secteurs d'activité vraiment, vraiment défensifs. Sanofi qui gagne 3,4% à 90,72 €. On a en tête des progressions du SBF 120, Verallia. Meilleure performance du jour sans doute. Le titre s'envole de 6,7% à 36,24 €. Là, on parle de performance fondamentale. À noter Eramet. Alors, c'est vrai qu'il y a des résultats qui sont quand même pas très très bons. Un avertissement, mais le titre gagne 3,22% à 78,60 €, parce qu'il y a aussi des perspectives de fusion géante dans le secteur minier entre Anglo-American et, oui, et BHP. Stéphanie vous en a parlé. Et puis, pas trop de surprises, mais Atos signe la plus forte baisse du SBF 120 et perd encore 7,5% à 1,84 € après ses performances financières. Le CAC, donc, moins 0,36%, on est à 8062 points et l'euro 1 dollar 0,728. Lorraine.
Merci Antoine, on vous retrouve dans une heure, on reviendra sur les publications américaines peut-être, on se dira ce qui s'est passé à Wall Street hier et comment ça nous concerne nous aujourd'hui côté européen. À tout à l'heure Antoine, on s'occupe des actualités patrimoniales et financières qui nous occupent nous en tant qu'investisseurs particuliers avec Stéphane Wernlifel.
Tout pour investir, le journal de votre argent.
Et oui, et nous, les investisseurs particuliers. Bonjour Stéphane.
Bonjour Lorraine.
Stéphane Wernlifel, cofondateur de Net Investissement, avec nous pour une revue de presse, on va dire, une revue d'actualité. On démarre avec l'histoire du banquier, de l'assureur et de la décarbonation. Racontez-nous.
Ben, en fait, c'est beaucoup plus large que ça et beaucoup plus compliqué que ça. Vous savez qu'en France, il y a un institut de la finance durable qui fait partie de la place parisienne qu'on appelle Paris Europlace. Et donc, son président, Yves Perrier, qui est aussi également le président Rothschild, rappelle finalement que les assureurs, les banques, ont d'abord un rôle, mais ont déjà eu un grand rôle dans la décarbonation et dans l'investissement, on va dire, durable. Alors, ce n'est pas que vert, mais c'est également sur la parité, enfin, tous les critères ESG qu'on connaît. Ce qu'il rappelle, ce qui m'intéresse dans cette actualité, c'est que il explique qu'on a un grand travail à faire encore, y compris les épargnants intellectuellement, à comprendre le sens qu'il faut désormais donner à une grande partie de nos investissements, que ce soit de la logistique, que ce soit des services, etc., dans le sens du développement durable. Bon. Et en parallèle, il rappelle quelque chose, et c'est ce que je voulais dire ce matin, il rappelle une rationalisation après ces années de très faible inflation et finalement d'envoler des prix immobiliers où les épargnants se sont un peu perdus entre les placements. Qu'espérer demain d'un placement vert du 15% de rendement, ce ne sera pas possible. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, un placement qu'on prend dans une action sur une infrastructure ou un placement sécurisé, en gros, le mécanisme reconnu par les grands financiers, c'est trois fois le placement garanti que vous pouvez avoir dans une banque ou dans une assurance. Vous prenez, en gros, le taux du fonds euro, vous le multipliez par trois et vous pouvez avoir normalement votre taux à risque avec une prime de risque acceptable. Mais on entend beaucoup parler aujourd'hui de tellement de choses dans le climat, de tellement de nouveautés, de tellement d'innovations, suivez mon regard vers les Magnificent Seven, que les gens s'imaginent avoir 10, 15, 20. Et il rappelle, et c'est très important, on n'aura jamais cette typologie de rendement sur des placements de ce type-là. Pour autant, si vous arrivez à avoir du 6 ou du 7 sans avoir un risque trop exposé, je trouvais que son actualité était intéressante. Elle est très dense, mais il y a une vraie prise de conscience des pouvoirs publics et je trouvais que c'était important qu'un grand banquier qui s'occupe de finances durables rappelle quand même que si on veut sauver la planète, on ne pourra pas sauver la planète et tous devenir millionnaires.
Et tous faire du 15%. Yves Perrier, le président du groupe bancaire Edmond Rothschild.
C'est ça. Et de l'Institut de la Finance Durable.
Voilà, qui appelle les épargnants à remettre l'église au milieu du village, en tout cas à se débarrasser de ces 15% forgés dans les années 90, qui était le 15% de rendement qu'il fallait chercher.
Et Lorraine, faire un 15% dans les années 90 avec des inflations à 7 ou 8%. Donc il faut aussi bien se rappeler que le rendement fonds euro moyen était à 5% dans les années 90. Donc vous faisiez votre x3, vous aviez votre règle.
Autre sujet, rapidement, après cet édito sur le banquier, l'assureur et la décarbonation, nous allons parler d'immobilier. Un autre patron qui vous inspire des réflexions, enfin en tout cas la prudence du patron du crédit mutuel vis-à-vis de l'immobilier. Racontez-nous.
Eh ben, j'ai suivi ça sur votre chaîne. Donc très honnêtement, je bondissais parce qu'en fait, alors, y a le côté positif, c'est que Daniel Daniel Ball, le patron du Crédit Mutuel, est quelqu'un d'assez posé. Donc en général, dans un sens ou dans un autre, il faut écouter sa parole. C'est un grand banquier, on va dire, mais qui ne va jamais ni dans un sens trop optimiste ni négatif. Là, ce qu'il nous explique, c'est que c'est pas parce que les taux sont en train, en tout cas, de stagner et qu'il risque d'y avoir une courbe de taux qui baisse dans les prochains mois, qui aura un impact sur la capacité d'emprunter des Français, vous et moi, pour que les prix immobiliers, ça redevienne la fête, comme ça l'a été pendant des années. Pourquoi ? Parce qu'il explique que pendant ce temps-là, et c'est ce que moi je défends depuis des semaines, l'immobilier neuf a eu d'énormes contraintes et les prix restent très lourds parce que vous ne pouvez plus faire baisser les prix de l'immobilier neuf avec les contraintes énergétiques nouvelles. L'immobilier ancien, avec la loi climat et résilience, les batteries de travaux sur grosso modo 30 à 40% du parc immobilier français, toutes ces contraintes-là font que même s'il y avait une baisse de taux de 1, ce qui n'arrivera pas, mais imaginons, c'est pas pour autant qu'on pourra renégocier des prix à la baisse parce qu'il y aura des contraintes. Donc en fait, qu'est-ce qu'il vient nous dire ? Il vient nous dire, une fois de plus, il attendait une baisse des prix. Bon, elle n'est pas arrivée. Excusez-moi, mon cher Daniel, ça fait 40 ans qu'on essaye, ça ne marche pas. Et de l'autre côté, il est en train de nous dire, de toute façon, si les prix repartaient un peu à la baisse, ils seraient freinés par, pardonnez-moi le terme, Lorraine, les quelques erreurs que les pouvoirs publics ont fait en mettant tout en même temps et en créant un crack immobilier qu'on n'a pas vu très longtemps.
Je vous pardonne. On va également parler impôts et éventuellement une réforme sur les plus-values immobilières. On va faire ça avec Charlotte Tamer dans quelques minutes. D'abord, je vous donne le reste de l'actualité. On suivra aujourd'hui des résultats tech avec Alphabet, Microsoft et Intel qui publieront leurs résultats dans la journée. Et puis, au-delà des résultats qui vont nous occuper, les investisseurs vont se concentrer sur le PIB américain du premier trimestre et sur les dépenses de consommation personnelle. Vous savez, c'est la jauge d'inflation préférée de la Fed pour le mois de mars. Ça, ce sera demain. Nous allons passer une tête chez nos traders. Stéphane, vous restez avec nous. On vous retrouve dans quelques minutes.
Tout pour investir. Le match des traders.
C'est jeudi. Ce matin, il y a Andrea Tuini, d'une part, sales trader chez Saxo Bank. Bonjour Andrea. Et puis,
bonjour.
Notre ami Mathieu Serron, trader et fondateur de Galileo Trading. Mathieu, on va démarrer avec vous. La nervosité semble être l'état d'esprit et l'état physique de beaucoup d'acteurs et d'observateurs des marchés aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Comment on aborde cette phase dans laquelle nous rentrons ?
Eh bien, on navigue à vue, tellement l'humeur des marchés est changeante actuellement. Humeur qui varie selon les publications d'entreprises. Et il y en a tout un tas aujourd'hui, 11 publications du CAC, mais énormément de publications au sein des mid et small, qui évoluent au gré des taux d'intérêt aussi, qui sont repartis de l'avant hier, donc ce qui a mis un petit peu de pression sur les marchés actions hier. D'où le repli concernant les résultats d'entreprise. Donc Antoine en parlait tout à l'heure, Meta a publié des résultats solides avec un bénéfice qui a plus que doublé et malgré cela 15% de baisse en pré-marché, cette baisse qui s'explique par l'annonce d'une croissance moins dynamique que prévue au deuxième trimestre et par des dépenses, des investissements plus importants concernant l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle. Ce matin, on a des résultats au niveau du CAC qui sont plutôt bons. Je pense notamment à Hermès qui a publié de bons résultats. Vous le disiez, on attend ce soir de grosses pondérations encore, de grosses capitalisations plutôt avec Alphabet et Microsoft. Donc comment aborder cette phase-là ? Eh bien, en naviguant à vue à court terme, autant la tendance de fond, on va dire, est assez facile, même si j'aime pas le terme, mais à lire dans la mesure où on est toujours dans le scénario d'une tendance de fond qui reste haussière. Haussière tant qu'on est au-delà des niveaux dont on parle ensemble depuis pas mal de temps, autour des 7800-850 sur le CAC. Donc tant qu'on est au-dessus de cette zone-là, eh bien, on reste du bon côté dans une optique moyen-long terme. Et puis à court terme, eh bien, il faut naviguer à vue. Moi, pour aujourd'hui, j'aborde cette phase-là, vous voyez, on est un peu au summum de l'hésitation où j'aborde cette phase-là avec un billet totalement neutre. Je suis prêt à acheter, je suis prêt à vendre. D'ailleurs, le niveau d'achat que je surveillais ce matin a été atteint puisque c'est 8005-10. Donc là, je parle d'un niveau sur le contrat futur échéance mai. Il y a environ 45 points d'écart entre le futur et l'indice dans la mesure où il reste beaucoup de dividendes encore et puis il y a du taux d'intérêt. Donc 8005-10 à l'achat pour viser 8035, éventuellement 8055. On peut toujours s'appuyer sur les options aussi. Pourquoi pas, vous voyez, vu vu le peu de visibilité que l'on a, et puis les rendez-vous importants qui nous attendent, pourquoi pas acheter des calls. Et je suis prêt également à vendre sur des rebonds. Et dans cet esprit-là, ce que j'avais en tête ce matin, c'était une vente vers 8070-75. L'intérêt de vendre, on va dire, dans cette zone-là, c'est qu'on peut mettre un niveau d'infirmation pas trop loin, puisqu'on pourrait prendre 8125, donc c'est pas loin du tout. Considérant que si on franchissait d'une manière, on va dire, durable et satisfaisante les 8125, eh bien la porte serait ouverte pour un retour sur les derniers plus hauts. Mais moi, je pars toujours du principe que l'hésitation devrait se poursuivre, que les marchés, je pense, dans les conditions actuelles, sont à l'abri d'une forte baisse. Et on l'a vu dernièrement avec le regain de tension au niveau de la géopolitique. Les marchés ont quand même plutôt bien tenu. On voit qu'il y a des achats qui arrivent, il y a des liquidités qui sont toujours présentes. Donc, je pense que l'hésitation va rester très forte à court terme, mais plutôt bien orientée dans une optique moyen-long terme.
Andrea, êtes-vous nerveux aussi? Et quel est votre regard peut-être sur les niveaux techniques aussi que vous avez surveillés aujourd'hui?
C'est sûr qu'il y a de la nervosité. En tout cas, il y a plus de mouvements que ce à quoi on a été habitué depuis le début de l'année, où on avait un marché qui était quasiment linéaire et qui poursuivait une optique de hausse non-stop avec des séances records à chaque fois. C'est vrai qu'on n'est plus du tout dans cette configuration-là. On a quand même des mouvements qui sont un petit peu plus erratiques, avec un peu plus de volatilité qui s'installe. Là, on est dans une phase où on doit digérer énormément de résultats d'entreprise. Mathieu l'a rappelé, il y a eu beaucoup de résultats à digérer et des issues qui sont pas tout à fait les mêmes. Avec d'un côté, par exemple, des ST Micro, des Dassault, Carrefour qui baissent, et puis de l'autre côté, des bons résultats et une réaction plutôt solide sur Sanofi. Encore des résultats qui seront à digérer ce soir aux États-Unis. Il y a des speakers de la BCE qui vont parler. Il y a le PIB demain, il y a le PCE. Vous l'avez rappelé aussi. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup d'événements aujourd'hui, beaucoup d'éléments qui sont à digérer jusqu'à la fin de la semaine et qui du coup peuvent provoquer encore ces mouvements erratique sur le marché. La configuration, en effet, elle est assez claire. Pour le moment, on reste dans une tendance qui est haussière, mais qui est beaucoup plus mouvementée. On a des niveaux, on a une zone pivot qui est entre 7875 et 7812. Tant qu'on est au-dessus de cette zone, on a une capacité de rebond sur le marché. Revenir vers 8125, en effet, ça ouvrirait la voie à un retour sur les plus hauts vers 8250. Si on passe sous cette zone, 7875, 7812, là, pour le coup, on a une dynamique qui est plutôt baissière et négative qui peut nous ramener vers 7550. Donc il faut rester au-dessus de ce niveau, mais c'est vrai qu'on devrait un petit peu sortir de cette configuration dans laquelle on était, à savoir, encore une fois, un marché qui augmente de manière assez linéaire. Ça, pour le coup, ça a pu être le cas. On va avoir beaucoup plus de mouvements erratiques. Il y a un repricing qui s'est fait aussi sur les politiques monétaires des banques centrales. Et puis là, encore une fois, cette saison de résultats d'entreprise avec toujours des attentes qui sont élevées, elle, pour le moment, elle réserve pour le moment des surprises. On l'a vu aussi plus tôt dans la semaine avec Kering qui a été pas mal chahuté. Donc ça crée des mouvements sur les marchés. On a une tendance qui est pas très clair et pas très lisible aussi sur les marchés américains. Donc on n'a pas non plus cette boussole venant des États-Unis qui peut servir un peu au marché européen. Donc du coup, voilà, c'est une tendance qui est plus erratique. On reste encore une fois dans une dynamique de fond qui est haussière, mais en effet, beaucoup plus mouvementée que ce qu'elle ne l'a été depuis le début de l'année.
Voilà, on navigue à vue sans la boussole américaine. Merci beaucoup à tous les deux pour cet éclairage. Mathieu Serron, Galileo Trading, Andrea Tuini depuis Saxo Bank. On vous retrouvera plus tard, messieurs. Merci beaucoup. Passez une bonne journée sur les marchés. Vous restez avec nous, on continue à s'occuper des actualités qui sont importantes pour vous en tant qu'investisseur et épargnant. A tout de suite.
Tout pour investir, tout pour votre argent.
C'est erratique aussi, notre discussion avec Stéphane Van Nuffel qui est toujours là. Rebonjour Stéphane.
Rebonjour Lorraine.
De l'équipe Net Investissement, Charlotte Tamer, très placide, nous a rejoint. Bonjour Charlotte.
Bonjour Lorraine.
Charlotte, vous êtes conseiller en finances personnelles. Avec nous, l'équipe du jeudi, très orientée, conseil, pour aborder l'actualité. On voulait réagir à ce que disaient nos deux traders, justement sur ce sentiment de nervosité pour vos clients respectifs. Comment on appréhende ces phases de résultats sans boussole, en naviguant à vue?
Alors sans boussole non, en naviguant à vue oui, parce que il y a quand même des choses qui dépendent des
sans boussole points. Américaine,
voilà,
précise,
exactement, des points de repère. Et c'est pas plus mal, Lorraine, je vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est pas plus mal qu'on arrête de tout le temps regarder la boussole américaine. Parce que quand vous faites des investissements dans le luxe sur Kering, LVMH, évidemment vous regardez l'entièreté de la planète parce que c'est des marchés extrêmement mondialisés, mais il y a plein d'autres choses à faire en ce moment sur les marchés sans avoir besoin systématiquement, que ce soit pour les taux ou pour l'equity, de regarder ce qui se passe au Atlantique. On a tout le temps l'intention de regarder ce qui se passe aux US en se disant formidable, deux semaines après il se passera la même chose. Bon, je suis pas sûr de ça, mais en tout cas j'ai retenu que c'était erratique.
Charlotte, rapidement.
Oui, c'est compliqué. Les investisseurs sont plutôt déboussolés, très attentistes. Tout est lié à cette politique des taux de la Fed qui, a priori, sont toujours pas décidés à baisser. Après, il existe des alternatives au trading aussi, la gestion conseillée, la gestion mandatée, le DCA. Il y a pas mal de techniques à disposition, on le dit un peu en plaisantant, mais je suis très sérieuse, qui sont à disposition des investisseurs et qui peuvent leur permettre de lisser cette volatilité et de se poser un petit peu moins de questions. C'est un travail à part entière.
Le Tranxen des investisseurs. On va parler d'un sujet qui concerne beaucoup d'entre vous. On va parler impôts. On va parler, Stéphane va nous rafraîchir la mémoire sur la potentielle réforme qui concernerait les plus-values immobilières. Racontez-nous.
Bon, on va faire du mal à la tête à personne dès le matin.
Vous savez 10h23, que... là, pour ceux qui nous
voilà, mais sur la plus-value immobilière potentielle que ferait un épargnant, vous avez un mécanisme qui a été inventé à plusieurs, à mon avis. Au-delà de la cinquième année de détention de ce bien, vous avez la possibilité, année après année, de profiter d'un pourcentage d'exonération cumulée de potentiel impôt sur le revenu ou de potentiels prélèvements sociaux à la sortie. Alors la petite spécificité, c'est que pour être totalement exonéré d'impôt sur le revenu, donc au prélèvement forfaitaire libératoire de 19%, c'est après 22 ans. Et pour les prélèvements sociaux, il fallait aller jusqu'à 30 ans. Pourquoi ? Me demandez pas. Et donc là, on a un député, j'ai dit que j'allais le citer parce que c'est bien qu'il le fasse, Christophe Blanchet, qui est le député du Calvados, qui a proposé une loi de harmoniser finalement les prélèvements sociaux sur l'impôt sur le revenu, et que finalement, à partir de la sixième année de détention jusqu'à la 22e, on efface la totalité potentielle d'imposition sur la plus-value, qu'elle soit en prélèvements sociaux ou en impôt sur le revenu. Ça, c'était pour vous faire un petit tour d'horizon et vous dire, c'est formidable, messieurs, ils ont bien réfléchi. On aurait préféré, parce que la deuxième partie de notre ami Christophe, c'est de nous dire, c'est pour redynamiser l'immobilier. Je suis pas sûr que le fait d'avoir un peu plus de prélèvements sociaux à payer entre 22 et 30 ans sur 19% d'une plus-value qui a déjà été quand même pas mal mise à mal ces derniers temps, monsieur le député, soit le seul élément. À la limite, on aurait baissé tout ça à 15 ans pendant un temps en se disant on a 10 ans pour effacer une plus-value entre la 5e et la 10e et la 15e année. Là, déjà, je pense que le message aurait été revenez faire de l'immobilier. Ça, c'est pour les fiscophobes. Donc, il y a du plus. Bravo. On prend les choses en main. Je suis pas sûr que ce soit le grand soir fiscal.
Pas le grand soir fiscal pour les auditeurs qui sont restés, malgré ce sujet très, très rébarbatif, Charlotte.
Je suis pas sûr. Je vous remercie.
Vous avez traité autant non, possible.
Je vous remercie. Non, bon, je vais y aller, moi.
Possible.
Je suis pas sûr que ce soit, j'ai peur que ce soit un peu un coup d'épée dans l'eau, malheureusement. Parce que effectivement, on touche un peu au nerf de la guerre français, la fiscalité. On touche à un autre nerf de la guerre en France, qu'est l'immobilier. Mais je suis pas sûre que le cumul des deux donne un résultat positif. Hein. Parfois un moins donne un plus. Mais là, je suis pas sûre. Je suis pas sûre de l'équation. Je pense malheureusement qu'on est trop. Enfin, on essaye. On dit que c'est la faute des taux. On dit que c'est la faute de l'immobilier. Enfin, on dit que c'est la faute de la fiscalité. À un moment donné, je pense qu'il faut revenir aux choses simples, tangibles pour tous, c'est-à-dire le prix de l'immobilier. Et je pense que le vrai sous-jacent, il est là. Et que tant qu'on touchera pas à ça. Il y a d'autres éléments structurels, mais je ne suis pas sûre que le marché de l'immobilier se redynamise par lui-même.
Le prix de l'immobilier et l'immobilier dans le sud de la France sera l'objet de notre séquence dans une heure. On parlera de Cannes versus Ajaccio. C'est notre séquence mensuelle, le match des villes. Vous êtes investisseur et intéressé pour mettre des billes dans une ville avec des promesses. Eh bien, nous ferons le portrait d'Ajaccio et celui de Cannes. Et ce sera à vous de choisir quelle ville attire le plus votre intérêt. On va parler d'un sujet qui m'est cher. Vous connaissez ma passion pour les ETF, Stéphane et Charlotte. J'ai vu que Calamos Investment a déposé en début de semaine une demande d'ETF dit protection structurée. Alors j'ai compris que ces ETF allaient suivre une partie des rendements du S&P 500 et du Nasdaq 100 et du Russell 2000 aussi, tout en couvrant 100% de la potentielle baisse des marchés. J'essaye des options. J'essaye de résumer aussi simplement que possible. Donc on parle d'ETF qui vont parier sur des marchés actions mais avec aucun risque de baisse. Charlotte, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est ETF qu'on peut traduire de protection structurée.
Charlotte.
Débrouillez-vous.
Moi, je vais vous donner une petite citation de Munger qui dit sur les marchés « We have three baskets for investing. Yes, no, and too slow to understand. » Et donc, voilà, je pense que pour
Je vais traduire. C'est Charlie Munger ou c'est Warren Buffett?
C'est Munger qui
le dit. Charlie Munger. Qui dit, en gros, il y a trois paniers pour investir. Le panier des oui, le panier des non et le panier des... C'est trop compliqué.
C'est trop compliqué. En fait, il n'y a pas de magie. On dit no free lunch sur les marchés. On dit qu'il n'y a pas de magie non plus sur l'investissement. Et quand on vous dit, venez surfer sur la magnifique vague des ETF et vous allez prendre du risque, vous n'allez pas avoir de pertes. Enfin, je veux dire, c'est un peu comme si on disait, viens prendre une douche sans être mouillé, quoi. Enfin, enfin, à un moment donné, c'est pas possible. On commence à raconter un peu tout et n'importe quoi. En fait, les marchés sont aussi une question de tendance, de marketing derrière tout ça. Là, c'est la mode des ETF. On voit des ETF passifs, des ETF actifs, des ETF structurés maintenant. Je pense qu'on aura tout vu. Globalement, la proposition, c'est un fonds structuré. Donc, ça vous dit, on vous permet de rentrer sur les marchés, sur les ETF, parce que les ETF sont à la mode. Et on vous dit, on va vous protéger votre capital contre une baisse éventuelle de 5%. La particularité, c'est que l'ETF, à la différence d'un fonds structuré plus classique, il va être en cotation continue et donc il n'a pas de période de souscription déterminée, c'est-à-dire qu'il n'est jamais fermé à la souscription a priori. Et donc les conditions d'éligibilité qui sont bonnes selon un marché donné, eh bien dans le temps, elles ne vont pas perdurer. Ce qui veut dire que si jamais, entre le moment où le fonds est validé, si le marché augmente entre-temps, ben vous n'avez plus la même garantie en capital. Mmh. Et si le marché chute entre-temps, il n'y a plus aucun intérêt à rentrer dans ce type de fonds qui, à mon avis, sont aussi très chargés en frais. Pour moi, c'est non.
Too tough to understand. Trop compliqué à comprendre, on n'y va pas.
Alors, c'est pas trop compliqué à comprendre, c'est que là, ils ont essayé de mettre le meilleur de tous les mondes dans un produit. Moi, j'ai toujours pas compris comment ils allaient assurer une liquidité, mais Charlotte a parfaitement expliqué le potentiel risque qui donc irait à l'inverse de cette liquidité. Je voyais Warren Buffett. Vous savez, il y a deux règles en finance, hein, nous dit notre cher Warren. Hein. La première règle, c'est de pas perdre. Et la deuxième règle, qui est encore plus importante, c'est de ne pas oublier la première règle. Donc, je le rappellerai toujours. Là, typiquement, on rentrerait dans le type de produit où marketing en parlant, on vous dit, vous n'avez rien à faire, ETF, c'est liquide, ETF, et en plus, on a une garantie.
Et diversifié.
Et diversifié, ETF. Et en plus, vous avez une garantie de ne pas perdre. Donc là, on va au-delà du fonds euro, avec des rendements, j'imagine qu'ils vont nous annoncer des rendements bien au-delà des garanties ou des comptes à terme. Et alors là, on enlève complètement la dernière barrière, j'ai envie de dire, d'attention des Français à ce qu'ils font avec leur argent. Donc c'est, entre guillemets, tout ce que je déteste, parce que finalement, là aussi, Warren Buffett le disait, posez-vous la question lorsque vous investissez. Si vous êtes capable de garder pendant 10 ans l'actif dans lequel vous avez mis de l'argent, même si les marchés vont à la flotte, un ETF garanti sur X panier, je ne suis pas sûr que ça fasse rêver les gens en termes d'actifs.
Ouais, pas forcément ce qui va mieux veiller dans notre panier. À suivre en tout cas, il fallait couvrir cette petite actualité ETF. Merci à tous les deux. Merci Stéphane Van Nuffel de l'équipe Net Investissement. Merci Charlotte, vous serez notre coach tout à l'heure. Avec vous, on va parler du CTO, du compte titres ordinaire. Le vilain petit canard, peut-être, de notre portefeuille d'investissement. On va lui refaire la cerise à ce CTO avec vous. Ce sera dans 20 grosses minutes. Si vous avez des questions sur votre CTO, sur votre compte titre ordinaire, vous le posez en question, ce CTO, et bah écrivez-nous direct à buffetbusiness.fr ou sur LinkedIn, je vous lis comme Inès Jérémy qui viennent de m'écrire. Nous allons également parler d'Hermès avec l'équipe de Carmignac Gestion qui sera avec nous dans quelques minutes. Hermès et Essilor Optica, ce seront nos idées de valeur à mettre peut-être dans votre portefeuille. Avant ça, il y a une rapide petite publicité avec Nicolas Dose qui revient aujourd'hui pour nous parler d'un sujet qui va vous faire rire, cher Stéphane. Enfin, rire, je ne sais pas, mais en tout cas avec lui, on va parler de la recette implacable du combat syndical. La recette pour gagner 100% des fois avec Nicolas juste après la pub. A tout de suite.
Tout pour investir. Dose d'économie.
C'est le mois de mai dans notre beau pays. La grève est en partie levée dans le ciel. Le principal syndical de contrôleurs aériens a obtenu un accord. Est-ce qu'ils nous font le même coup que la SNCF à vouloir nous pourrir le mois de mai?
Exactement le même coup. Il y a vraiment la recette du cocktail réussi. Pour faire cette chronique, je pensais à la chanson de Gainsbourg, la recette de l'amour fou, dans un boudoir introduisé. Ben voilà. Donc, premièrement, vous prenez une entreprise, bel et bien contrôlée par l'État à 100%. Comme ça, on sait qu'elle ne fera pas faillite. Vous imaginez la direction générale de l'aviation civile au tribunal de commerce? Non.
Non.
Si la SNCF pouvait faire faillite, ce serait fait déjà. Voilà. Ensuite, deuxième élément, vous ajoutez une profession qui est quand même largement à l'abri du chômage. Après, troisième élément de la recette, vous veillez à ce que ce métier, cette profession, ait la capacité à bloquer massivement le pays très très vite. J'ai envie de dire que pour que l'émulsion réussisse comme une bonne mayonnaise, allez, 12 heures, 24 heures max, tout doit être complètement verrouillé. Quatrième élément, vous ajoutez une période bénie. Ah, le mois de mai, avec ses viaducs hors normes, et puis en plus des Jeux Olympiques, un événement centenaire, il n'y a rien de meilleur. Cinquièmement, on fait cuire à feu vif, et puis vous montez tout ça à ébullition. Après, vous laisserez refroidir en temps utile, on verra. Et puis sixième élément, ben, vous savez que vous allez vous mettre à dos l'opinion qui va s'indigner de tout ça. Mais vous vous en foutez. Parce qu'une opinion indignée ou pas, c'est une opinion qui a besoin de se déplacer. Mmh. Ah là, vous avez la recette merveilleuse. La recette merveilleuse, et si vous la suivez, je peux vous assurer que vous ne pouvez pas vous planter. Ils l'ont appliquée à la lettre à la SNCF, et voilà comment ils ont réussi à détricoter, voire anéantir la réforme des retraites pour une bonne partie des cheminots, et en particulier les contrôleurs. Et donc la preuve avec l'accord obtenu hier par le premier syndicat de contrôleurs aériens auprès de la DGAC, la recette du combat gagné.
La recette immanquable du combat syndical gagné. Alors, elle a quel goût cette recette? Qu'est-ce que les aiguilleurs du ciel ont obtenu?
Mais ils n'ont pas dit. Ça doit être tellement sympa qu'ils ont préféré pas le dire. En tout cas, ils ont une sauce qui est assez proche de celle des cheminots. Tout ça, ça tourne autour de la fin de carrière. Donc, on ancre définitivement des nouveaux avantages pour faire qu'un régime qui était un régime spécial devienne un régime très spécial, voilà. Donc d'après les échos, il y a une info dans les échos, les contrôleurs aériens ont obtenu d'accéder en fin de carrière aux plus hauts indices de rémunération de la fonction publique, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, à 59 ans, au moment du départ, eh ben, la rémunération, enfin la pension de retraite est d'autant plus élevée. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est pas l'État qui va payer. Non, les compagnies aériennes versent une redevance à la DGAC, et donc les compagnies aériennes feront payer la facture à ceux qui prennent l'avion. À la SNCF, le régime de retraite, il est déficitaire tous les ans, on le sait. C'est pas grave, c'est l'État qui paie. L'État, d'ailleurs, qui a quand même allégé la SNCF de 35 milliards d'euros de fardeau financier, de dette, qui a été requalifiée en dette publique. Alors, je me disais, finalement, les éléments de la recette, qui les maîtrise? La RATP, encore. À qui le tour? On peut penser à la RATP. Ils sont visionnaires à la RATP, puisqu'ils ont déposé des préavis de grève absolument tous les jours, jusqu'au 9 septembre. On ne sait jamais, mieux vaut prévoir. Ce qui veut dire que le dernier préavis de grève, c'est le 9 septembre, parce que la veille, c'est la date de la finale des Jeux Olympiques Paralympiques. Voilà. Et donc, ça s'appelle la paix sociale, quoi qu'il en coûte.
Voilà, la recette immanquable. Merci beaucoup, Nicolas, pour avoir partagé votre cuisine avec nous.
Et voilà, c'est de la cuisine.
Séquence à retrouver en podcast et en replay sur notre site web. Et puis, si vous aussi, vous voulez ajouter votre grain de sel, eh bien, ça se passe aussi sur YouTube, cette séquence à retrouver sur notre chaîne, la chaîne BFM Business sur YouTube. Vous pouvez commenter. À suivre, on va changer de sujet. On ne va pas parler de recette, quoique. La recette magique d'Hermès pour toujours afficher des chiffres à faire rêver et la vente de maroquinerie céleri qui font, évidemment... réfléchir à ce que ça veut dire le succès et la tradition. On va en parler avec Kevin Tauzé dans quelques secondes. À tout de suite.
Tout pour investir, les marchés et vous.
Les marchés et nous et notre portefeuille avec l'équipe de Carmignac. Bonjour Kevin.
Bonjour Anne.
Kevin Tauzé, membre du comité d'investissement. Vous êtes avec nous pour parler de deux valeurs de consommation. On va parler de consommation avec un grand C, de consommation triple A, de consommation plein d'étoiles. Vous allez nous parler d'Hermès qui publiait ce matin. Racontez-nous ce que ça donne.
Des résultats, donc des chiffres de croissance en forte hausse, 17% de croissance du chiffre d'affaires, porté essentiellement par la maroquinerie, mais pas que, le prêt-à-porter aussi. Quasiment toutes les régions sont là aussi, dépassent là aussi les attentes, que ce soit en Europe, en Chine aussi. Alors un peu moins de trafic en Chine, mais un bien meilleur mix. Et ça aussi, ça fait partie du succès de Hermès. Il y a la maroquinerie et puis il y a l'avenir, sans doute la joaillerie, la haute joaillerie. Donc tout ça sont des bonnes nouvelles sur le front des résultats et de la croissance. Il y a aussi des questions sur l'inflation. Mais Hermès a passé des hausses de prix en début d'année, 8%, et l'inflation anticipée, notamment sur les coûts salariaux, seront bien en deçà de ça. Donc on a une entreprise qui a un chiffre d'affaires qui est en forte hausse. On l'a dit, 7% sur les prix. Des volumes là aussi en forte croissance et des marges qui devraient être maintenues.
Ça fait un moment que l'entreprise prévient que les marges pourraient baisser. On le sait, Hermès a une politique salariale assez sympathique pour ses employés. Elle fait beaucoup de publicité. Où on en est où?
Bien, ça fait plusieurs années qu'elle le dit, mais ça n'arrive pas. Et là aussi, je crois que quand on a un chiffre d'affaires qui croît à deux chiffres, entre 13 et 15%. C'est très compliqué d'imaginer cette marge se dégrader. Hein. Pour rappel, le niveau de marge nette en 2023 pour Hermès, c'est plus de 30%. Hein, donc voilà où on en est. Il y a des dépenses, en effet, hein, des nouveaux sites qui sont ouverts, à peu près entre 2000 et 3000 salariés qui seront recrutés cette année. Mais là aussi, avec une inflation salariale bien en deçà de la hausse de prix qui a été pratiquée en Europe et a fortiori dans le reste du monde.
Vous l'avez rappelé, hein, Hermès croît dans la plupart de ses segments, mais je voudrais revenir sur les ventes de maroquinerie, céleri, qui sont le cœur de métier d'Hermès, qui fait un bond de 20% à 1,6 milliard d'euros grâce à, je cite, une demande particulièrement soutenue. On achète autant dans le monde entier des produits Hermès, quel que soit le prix et quelle que soit l'inflation.
Alors oui, hein, pour rappel, c'est 50% à peu près du mix produit hein, d'Hermès, cette maroquinerie. Alors les chiffres du premier semestre, ils sont particulièrement bons. Ils sont toujours particulièrement bons, et a fortiori cette année, parce que on a un phénomène qui est le nouvel an chinois, et donc on a une partie de la clientèle d'Hermès qui est particulièrement acheteuse sur cette période-là. Je crois pas qu'il faille anticiper ou projeter ces mêmes chiffres. Hein, 20% sera peut-être un petit peu en deçà de ça. Mais enfin bon, encore une fois, quand on a un segment du groupe qui croit à 15%, voilà, ça peut rendre un petit peu.
Et c'est très concret parce que ça veut dire de l'emploi aussi sur notre territoire. Hein. Hermès annonce 4 projets de maroquinerie en France, très concrètement, dans le Puy-de-Dôme, en Charente notamment, en Gironde, d'ici quelques années. Un mot de la valorisation d'Hermès.
Oui.
Qu'est-ce que l'investisseur que vous êtes, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que nous, investisseurs particuliers, on doit se dire quand on voit cette valorisation?
Alors c'est sûr que si on regarde des mesures de valorisation traditionnelle, hein, type voilà un ratio cours bénéfice, ça interpelle. Je crois qu'Hermès, on l'a dit, c'est une entreprise qui est en forte croissance, et donc c'est plutôt en DCF qu'il faut la regarder, et donc voilà actualiser les flux de trésorerie futurs. Là aussi, hein, une croissance entre 10 et 15% par an, plutôt autour de 13% en tout cas sur les 4-5 prochaines années. On a un capital qui reste quand même relativement contenu. Hein, nous, dans notre modèle, on met ça autour de 8%. Et donc, ça veut dire quand même une entreprise qui, aujourd'hui, est tout à fait, on va dire, présente des valorisations qui ne sont pas aussi excessives que ce qu'on pourrait en croire de premier abord. Ça, c'en est un. Et puis l'autre, c'est qu'on a tendance à ne pas l'oublier, mais il y a un dividende exceptionnel, conséquent, qui est détaché par le groupe Hermès tous les 2-3 ans. Et ça met du beurre dans les épinards également.
Quelle comparaison on peut faire avec les autres acteurs du luxe, du vrai luxe, j'allais dire. Peut-être si on compare à d'autres acteurs européens, j'ai Prada en tête, mais peut-être que ce n'est pas la bonne comparaison. Avec qui on peut comparer encore Hermès?
Alors là aussi, je crois que dans le luxe, il y a, comme vous le disiez, hein, le triple A ou quadruple A, et puis le un peu moins bien disant. Si on doit faire cette comparaison-là, je crois qu'un groupe comme Hermès, il faut plutôt le comparer à une entreprise comme Louis Vuitton, par exemple, comme Prada, et peut-être un petit peu moins que d'autres, et notamment comme Gucci, Burberry ou Ferragamo, qui sont sans doute un petit peu moins avancés, en tout cas moins premium que Hermès, et ça se voit dans les résultats.
On va parler d'un autre groupe, peut-être un peu moins luxueux, mais qui néanmoins illustre, parle de notre consommation, Essilor Luxottica. Rappelez-nous un petit peu ce qu'il faut retenir.
Alors, Essilor Luxottica, c'est le leader mondial de la lunette, et voilà, qui est un groupe qui s'est constitué avec le rapprochement d'une entreprise française, donc Essilor spécialisée dans les verres, hein, et puis d'un lunetier italien. Donc, on n'est pas dans le luxe, mais on est quand même dans la consommation, quand même dans la mode, avec Luxottica. Et ça donne un acteur qui est quand même unique en son genre et qui rassemble, on va dire, d'une part une forme de technologie, hein, la santé et puis là aussi la consommation. Alors, on a des chiffres de croissance qui sont peut-être moins flamboyant que
ceux de comparer
exactement
pas de comparaison avec Hermès
que ceux d'Hermès, mais quand même hein, on a une verticale qui croît entre 5 et 7%, on a des profits opérationnels qui sont autour de 20%, et là on est sur des niveaux de valorisation qui sont largement inférieurs à ceux d'Hermès, donc je crois que ça vient bien complémenter ce rapport là dans des valeurs de consommation françaises, et là aussi deux leaders mondiaux, et Essilor Luxottica en est un également.
On parle aussi d'un groupe mondial qui innove dans le monde entier, notamment en Chine, avec des produits pour la myopie.
C'est ça. Donc on a vu donc des résultats qui ont été publiés la semaine dernière, qui là aussi ont été très bons, un pur prix à la hausse, alors qu'on avait une base de comparable qui n'était pas évidente vis-à-vis du premier trimestre de 2023 ou de 2022. Et on a sur le deuxième semestre, quand même des grands projets qui se déploient. Alors là, on parle de Stelleste, hein, donc ce sont des lunettes pour traiter la myopie des jeunes, hein, la myopie des adolescents. Alors, il y a plus d'adolescents et d'enfants myopes en Chine. C'est pas que lié à la lumière bleue des écrans, c'est lié à de la génétique aussi. Et c'est un programme qui a été déroulé par Essilor Lixotica il y a un peu plus d'un an de ça. C'est déjà 10% du chiffre d'affaires. C'est en train d'être déroulé en Europe.
10% là, du chiffre d'affaires Chine ou monde ?
Monde. Et donc, c'est en train de se dérouler en Europe là sur le deuxième semestre et ça viendra aux États-Unis sur 2025. Ça permet quoi ? Ça permet de ralentir le traitement de la myopie et on est sur des niveaux de prix qui sont bien supérieurs, on va dire, au prix moyen d'une lunette en Chine. C'est de l'ordre de 200 euros. Donc ça, c'est un véhicule, en tout cas, une thématique d'innovation. Mais il y en a d'autres. Hein, il y a les nouvelles générations de verres Varilux. Alors là, hein, ces fameux verres photochromatiques qui évoluent deux fois plus vite. Mais ils sont vendus deux fois plus cher, hein, si je fais ce raccourci-là. Et puis, il y a d'autres segments. Hein. On a notamment Essilor qui a acheté une entreprise spécialisée dans les prothèses auditives. Et là où certaines prothèses auditives, on va dire, historiques peuvent être disgracieuses, hein, ben là, elles sont dans les branches des lunettes. Et ça aussi, ça va être un facteur, en tout cas un levier de croissance pour un groupe comme Essilor Lixotica.
Et oui, c'est l'innovation à la fois pour nos yeux, pour nos oreilles, tout ça pour notre consommation. Un mot pour finir, pour nous convaincre pourquoi vous êtes à l'achat sur cette valeur, c'est aussi sur ce que fait le groupe en Europe en particulier. Il y a beaucoup de marques, il y a beaucoup de synergies.
C'est ça, donc on se projette un petit peu sur l'avenir, mais il y a des résultats très concrets. Hein. Là aussi, le groupe Essilor Lixotica est rentré au capital développé, on va dire, sa franchise dans les magasins Grand Optical, dans les magasins Grand Vision. Et là aussi, là, on avait 4-5 marques de distributeurs. Aujourd'hui, les produits du groupe Essilor Lixotica sont proposés systématiquement à la vente et à l'achat dans ces boutiques-là. Et donc, on voit bien les synergies qu'il peut y avoir, soit sur des montures, soit sur des verres.
Merci beaucoup, Kevin, pour ce portrait de valeur européenne et française pour Hermès. Essilor Lixotica, voilà pourquoi il faut s'arrêter dessus quand on décortique les chiffres et ces histoires d'entreprises, on l'entend, qui ne sont pas que nationales ou européennes, mais qui sont bien mondiales avec en sous-jacent l'innovation. Est-ce que vous pourriez mettre du Hermès dans votre CTO, dans votre compte-titres ordinaire ? C'est une des questions que nous allons poser à Charlotte Tamer qui nous rejoint pour parler de notre compte-titres, ce petit canard, ce vilain petit canard de nos enveloppes d'investissement. Vilain petit canard, le CTO, selon vous, Kevin ?
Non, je crois pas. C'est vrai que tout le monde regarde les contrats d'assurance vie parce que il y a une offre qui est pléthorique, mais il y a quand même beaucoup de choses à faire sur la compte-titres également.
Allez, on va lister les avantages et puis aussi les limites de cette enveloppe qui revient au goût des investisseurs, notamment fiscalité, architecture ouverte et puis liquidité, évidemment, des mots clés et importants quand on gère ses finances personnelles. Cette séquence, c'est à retrouver en podcast et en replay. Et bien sûr, vous le savez, d'ici quelques minutes, sur le site et l'application BFM. À suivre, le coach.
Tout pour investir sur BFM Business. Tout pour investir, le coach.
Alors, c'est la coach aujourd'hui, chère voix off. Bonjour Charlotte Tamer.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes notre conseil en finances personnelles. Aujourd'hui, nous allons parler d'un vilain petit canard. On l'appelle comme ça depuis le début de l'émission. Est-ce que c'est la bonne manière de qualifier notre compte-titre, notre vieux compte-titre ordinaire ? Celui que vous avez et que vous délaissez, ou peut-être que celui que vous n'avez pas encore ?
Alors, c'est celui qui est clairement délaissé. C'est vrai que le compte-titres, c'est un peu le... On sait que pour rentrer sur les marchés, il faut utiliser des enveloppes fiscales qui sont adéquates. Et en fait, comme le compte-titres n'a pas un avantage fiscal a priori apparent aussi attractif que l'assurance-vie ou le PEA, c'est vrai qu'il est, pour autant, il est pas mal laissé pour compte. Pour autant, c'est une enveloppe qui est en train de revenir sur le devant de la scène. On va voir, une fois qu'on aura listé l'ensemble de ses avantages, pourquoi il revient aujourd'hui sur le devant de la scène. Et au final, on se rend compte que c'est une enveloppe qui n'est pas tant à laisser de côté que ça pour différentes raisons. La première, c'est que quand vous ouvrez un compte-titres, enfin, comme le compte-titres n'a pas d'avantages fiscaux apparents, eh bien, en fait, on peut mettre tout dedans. Il est totalement en architecture.
C'est un peu un panier Gifutu.
Voilà, on peut faire une grosse salade composée sur le compte-titres, c'est-à-dire que vous pouvez mettre du titre vif, vous pouvez mettre des fonds communs de placement, dont les fameux ETF dont on parlait précédemment. On peut aussi mettre les crypto-monnaies et le tout mélanger. Vous pouvez faire les choses comme vous le souhaitez à l'intérieur de votre compte-titres. Alors, attention, les crypto-monnaies ne sont pas accessibles sur l'ensemble des plateformes, mais si vous êtes sur une plateforme qui propose des crypto-monnaies, vous pouvez mélanger titres vifs, ETF et crypto-monnaies. Et donc, sans restriction, ça, c'est plutôt pas mal. Le deuxième avantage qu'on veut mettre en avant sur le compte-titres, c'est qu'on va être sur une enveloppe qui est particulièrement liquide et qui est liée à la propriété sur le compte-titres. Je vais le mettre en opposition, par exemple, avec l'assurance-vie, qui est a priori le placement préféré des Français. Quand vous ouvrez une assurance-vie, vous êtes créancier de l'assureur qui vous délivre l'assurance-vie. Donc vous, en tant qu'investisseur final, vous ne le ressentez pas. Hein, ça, à aucun moment, vous ne vous sentez créancier de l'assureur, mais vous n'êtes plus propriétaire des capitaux qui composent votre assurance-vie. Alors que quand vous êtes sur un compte-titres, vous êtes détenteur, vous êtes propriétaire directement des titres qui composent votre compte-titres, ce qui va changer la rapidité de la liquidité, des ordres de trading. Donc ça va beaucoup plus vite que sur une enveloppe assurantielle. Vous l'avez sous la main et les garanties bancaires qui vont être associées à ce compte-titres sont quand même différentes et un peu plus généreuses. La troisième chose qui me paraît essentielle, on va parler des frais comme d'habitude, c'est la faiblesse des frais. Quand vous ouvrez une enveloppe bancaire auprès d'un teneur de compte et non pas d'un courtier, donc faites attention à ça.
Qu'est-ce que c'est la différence entre un teneur de compte et un courtier pour les plus novices d'entre nous?
En fait, le teneur de compte, c'est lui qui va assurer toute la partie opérationnelle de votre compte-titres, c'est lui qui va détenir vos capitaux à travers ce compte-titres. Le courtier, c'est quelqu'un qui va être un intermédiaire entre le teneur de compte et vous, le client, sur le compte-titres. Et là, en fait, on se rend compte de quoi ? Eh bien, un compte-titres ne présente pas de frais de tenue de compte. Alors, les frais de tenue de compte, c'est quoi ? Ils sont aussi appelés frais de gestion. Il y a toujours un problème de nomenclature sur les frais aujourd'hui. Mais les frais de tenue de compte sur l'assurance-vie, toujours par opposition, vont entre 0,6% à 0,96%. Et ça, par an, sur un placement plutôt investi en actions sur 8 ans, ça a un impact colossal sur la performance. Donc, architecture ouverte, propriété, très grande liquidité, faiblesse des frais et font que ça redevient un placement assez attractif. Pourquoi on en entend beaucoup parler ? Parce qu'on est clairement dans une période très prospère aux crypto-monnaies et qu'aujourd'hui, vous ne pouvez investir vos crypto-monnaies que sur le compte-titres. La deuxième raison, c'est parce qu'on a de plus en plus de gens qui sont sous société, en SASU par exemple. Et en fait, le compte-titres, vous pouvez l'ouvrir quand vous êtes une personne physique, quand vous êtes une personne morale. Vous pouvez ouvrir un compte-titres quand vous êtes majeur, quand vous êtes mineur, enfin l'étendue des possibles est beaucoup plus large que pour les enveloppes homologues qui sont beaucoup plus restreintes. Et ensuite, le dernier point, on entend beaucoup parler aussi du compte-titres parce qu'on voit arriver une nouvelle forme de produit aujourd'hui sur la place qui sont les plans d'investissement programmés et donc qui permettent d'investir de manière régulière en DCA sur les marchés financiers. Et là, cerise sur le gâteau, en plus de l'absence de frais de tenue de compte, vous avez aussi une absence des frais de trading. Donc vous ne payez que votre sous-jacent. Et ça, en fait, aujourd'hui, on oppose le compte-titres à l'assurance-vie en disant il n'y a pas de franchise d'impôt. Non, il n'y a pas de franchise d'impôt, mais les moins-values reportables, les moins-values actives, sont reportables sur les plus-values actives à déclarer pendant 10 ans. En fait, il y a un jeu de compensation. La fiscalité n'est pas si drastique qu'elle n'y paraît. Il y a plusieurs choses. D'une part, on investit de plus en plus en fonds communs de placement, notamment en ETF. Si vous ne bougez pas, que vous êtes en gestion passive, que vous ne bougez pas votre ETF de l'année, vous partez de 100, vous finissez l'année à 120, votre plus-value n'est pas à déclarer. Vous êtes en plus-value passive. Seules les plus-values et les moins-values actives sont à déclarer. Et deuxième chose, quand vous avez des moins-values actives, parce que sur un portefeuille de 10 ans, le marché ne fait ni que monter, ni que descendre, c'est aussi la beauté du marché, c'est comme ça qu'on fait de la performance, eh bien vos moins-values actives vont venir gommer les plus-values actives sur les 10 prochaines années. Il y a un jeu de compensation qui s'effectue entre le fait qu'on investit sur des fonds communs de placement et le fait de la compensation entre les plus et les moins-values actives. On a là tous les éléments réunis pour avoir un super outil pour préparer sa retraite à titre personnel, mais aussi au sein de sa société. Et je le disais tout à l'heure, personne morale, personne physique, majeur, mineur avec une autorisation parentale. On peut l'ouvrir en titulaire unique, mais aussi en compte joint ou en compte indivis. On peut le détenir en pleine propriété, en nue propriété, en usufruit. Pour l'IP que je ne suis pas, donc l'ingénieur patrimonial que je ne suis pas, ça me laisse quand même un petit peu rêveuse. On a là un vrai outil dont tout le monde devrait être aujourd'hui équipé.
Non mais là, c'est le logis du compte-titres que vous nous faites, Charlotte. Alors pourquoi il est aussi peu populaire ? C'est une question de marketing ? On parlait tout à l'heure des ETF.
Tout à fait. Alors, il y a ça, il y a une question de marketing, il y a une question qu'en fait, aujourd'hui, tout est drivé par la fiscalité. Encore une fois, on le rappelle, la fiscalité, c'est le cerise sur le gâteau. Nous, ce qu'on vise avant tout, quand on conseille nos clients, c'est d'aller chercher de la performance. Si un, j'ai de la performance, et que deux, en plus, je peux avoir l'attrait fiscal, c'est fantastique. Mais on se rend compte aujourd'hui, à travers les enveloppes bancaires, on ne parle pas du PEA ce matin, mais il rentre un peu dans une logique un petit peu similaire en termes de frais. absence de frais de tenue de compte, absence de frais de courtage grâce à l'investissement programmé,
ouais,
on est quand même sur un combo gagnant. Donc moins j'ai de frais, plus j'ai de perf.
Mais Charlotte, si j'ai déjà un PEA, j'ai déjà une assurance vie, au pluriel parfois, et que je veux rester en gestion plutôt passive, quel est l'intérêt d'avoir un CTO en plus ? Un compte titre ?
J'ouvre un compte titre, je veux rester plutôt en gestion passive, j'ouvre un compte titre qui ne me coûte rien l'année, j'investis sur un ETF qui va me coûter, si je le choisis plutôt pas trop mal, entre 0,1 et 0,5% de frais de gestion annuels. Si il ne se passe rien d'autre, en fait, à part le coût de mon ETF à l'année, ça ne va rien me coûter. Donc, je vais investir une certaine somme d'argent qui va travailler sur les marchés, je ne sais pas, je prends le S&P 500, j'investis dessus pendant 10 ans, ça va me coûter en tout et pour tout 0,5% de frais, tout compris, sous-jacent compris, puisque je ne paye que le sous-jacent, comparé à une assurance-vie. Même l'assurance-vie la moins chère du marché, qui est à 0,96% aujourd'hui, tout compris, est deux fois plus chère qu'un compte-titre investi sur un ETF.
Bon, comment j'arbitre alors ? Comment je décide ?
Alors, comment je décide ?
Je vais vous donner une question concrète. Regardez, on a Michel qui nous suit quotidiennement et qu'on salue, qui est basé à Marseille, si je ne dis pas de bêtises. Michel G. Qui possède un vieux compte-titres, mais impossible d'acheter des actions US avec. Et il nous demande s'il existe des comptes-titres où on peut acheter ce type de produit. Par exemple, on le sait avec le PEA, on peut aller acheter des ETF exposés au monde, exposés US. Est-ce qu'on peut faire la même chose sur un compte-titres ? Et est-ce que, du coup, c'est comme ça qu'on arbitre ?
Alors, là, après, on va parler, ça dépend des plateformes, ça dépend des distributeurs. Il faut quand même se renseigner. Vous pouvez ouvrir un compte-titres dans une banque. Il y a de plus en plus de plateformes en ligne qu'on appelle des plateformes d'investissement qui permettent aujourd'hui d'investir et qui vont avoir des offres plus ou moins variables en fonction de l'offre qu'elles proposent. Tout n'est pas toujours éligible. Mais ce que je veux dire, c'est que comparé au placement préféré des Français, j'ai rien contre l'assurance-vie, hein, puisqu'elle a un avantage successoral, etc., qu'on peut pas nier aujourd'hui. Je dis juste que il peut être intéressant de compléter un investissement exclusivement en assurance-vie à travers aussi des enveloppes bancaires. Et je pense que toute personne, avant d'investir, c'est comme pour l'assurance-vie, c'est de s'intéresser au mode de fonctionnement de la plateforme qui va proposer le compte-titres, à son univers d'investissement, et voir s'il est en corrélation avec le souhait de l'investisseur final. Il y a quand même un petit travail, encore une fois, il y a quand même un petit travail de recherche et d'intérêt de la part de l'investisseur.
Est-ce que la réponse, justement, à comment on choisit, c'est pas quelque part l'horizon ? On le comprend, le PEA et l'assurance vie, pour des questions de fiscalité, nous encouragent à rester logés longtemps dedans. Est-ce que le CTO, justement, c'est pas l'endroit où, quand on a envie de boursicoter, d'investir sur l'économie, eh bien, on y va et on l'utilise un peu, non pas en trading journalier, mais voilà, où on se permet d'aller mettre son argent au service de l'économie et regarder un petit peu plus régulièrement ce qui s'y passe que sur son assurance vie ou son PEA qu'on peut laisser travailler tranquillement ?
Alors, effectivement, c'est ce qui va ressortir des modes d'utilisation du compte-titre aujourd'hui. Après, je pense qu'il ne faut pas limiter le compte-titre à cette utilisation, à cette notion de trading. D'une part, pour une raison de fiscalité évidente que j'ai évoquée juste avant, plus-value active, plus-value passive. La plus-value devient active à partir du moment où vous opérez à des mouvements d'achat et de revente sur votre portefeuille. Donc, vous pouvez générer un peu de fiscalité en fonctionnant de cette manière-là. Mais je pense que le compte-titre peut être aussi fait pour un investissement patrimonial, un investissement de plus long terme. Et là où j'amène les épargnants à réfléchir, c'est de se dire, est-ce que je fais passer les frais ou la fiscalité avant tout ? Moi, je pense qu'en tablant sur les frais, sur la réduction des frais, on est plus enclin à aller chercher de la performance. Mettre la fiscalité avant toute chose, c'est un peu comme si je vous mettais dans une Ferrari sans que vous ayez votre permis de conduire. Je ne suis pas sûre que l'enveloppe va générer de la performance au final. Donc, moi, ce que je dis, c'est que remettons les choses dans le bon ordre. D'abord, allons chercher de la performance, et toutes les études se rejoignent aujourd'hui pour dire, moins il y a de frais, plus il y a de performance. Et deuxièmement, l'attraction fiscale arrive en deuxième étape. Mais je vais vous donner un exemple sur le compte-titres dont on parle assez peu.
On va finir là-dessus, Charlotte.
Aujourd'hui, sur les comptes-titres, vous pouvez aussi mettre des fonds communs de placement monétaire, d'accord, pour ces placements de trésorerie. On va prendre toutes ces sociétés, notamment les holdings, qui cherchent des placements à court terme aujourd'hui. On a pas mal de sociétés, des holdings, des sociétés d'exploitation qui cherchent des placements de trésorerie à court terme, mais qui sont un petit peu embêtés par tout le conditionnement d'un DCA aujourd'hui. Il faut avoir un certain montant, il faut avoir un certain horizon de placement, et si vous sortez avant l'échéance, vous perdez votre performance. Demain, vous ouvrez un compte-titres avec un fonds monétaire dessus, qui va vous rapporter un 3,5%. Vous vous dites que vous êtes parti sur une année, au bout de 8 semaines, au final, vous devez sortir, vous récupérez votre investissement pro rata temporis. Ça, aujourd'hui, grâce à l'architecture ouverte, je peux avoir du monétaire, parce que je suis sur une enveloppe bancaire, j'ai ma liquidité en tout temps, et je ne suis pas conditionné, et j'ai très peu de frais. Donc, au final, je suis sur un produit parfaitement adapté à tout type d'investisseur.
Je étant à la fois, on l'entend, une personne physique et une personne morale. Oui. Vous êtes à la tête d'une entreprise avec de la trésor. Le compte titre, ça s'envisage. Merci beaucoup Charlotte Tamer, conseillère en finance personnelle, avec nous un jeudi sur deux dans Tout pour investir. Et à toute heure du jour et de la nuit, en podcast et en replay, parce que cette séquence, comme l'ensemble de nos coachings, est disponible sur notre site et notre application dans la foulée de l'émission. Vous restez avec nous, on marque une petite pub et après on s'occupe de l'info éco à 11h. On passera une tête chez Antoine, enfin à Euronext, pour discuter avec Antoine ce qui se passe sur les marchés. Et puis après, c'est l'immobilier. Le match des villes, Ajaccio contre Cannes. Et puis on parlera private equity parce que c'est jeudi. On parlera du secteur des logiciels, les SaaS. Pourquoi est-ce que le private equity adore ce secteur? À tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business. BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de faire de vous des meilleurs investisseurs, que vous ayez déjà un capital ou que vous cherchiez à en construire un. Ça se passe tous les jours de 10h à midi, en direct, à la radio, à la télé, sur le web, et puis à n'importe quelle heure, en podcast et en replay, que vous soyez en France ou ailleurs. Et on salue tous nos auditeurs, en dehors de notre beau pays. Au programme de l'heure à venir, notre beau pays, justement, au programme, nous allons parler d'Ajaccio et de Cannes, deux villes que nous mettons en opposition dans le cadre de notre match des villes avec l'équipe de Net Investissement. Est-ce qu'il vaut mieux investir en Corse ou dans la belle Azurienne? On parlera également de private equity, puisque c'est jeudi. Le jeudi, on aime bien parler private equity dans Tout pour investir. On zoomera sur le secteur des logiciels. Pourquoi est-ce qu'il intéresse autant le non-coté, ce secteur des logiciels? Réponse dans une petite demi-heure. Et puis, on parlera de vos impôts. On essaye de faire ça tous les jours pour vous aider à survivre à cette sombre période déclarative qui est ouverte depuis le 11 avril. Est-ce que c'est un moment d'angoisse pour vous ou bien au contraire une formalité? Si vous êtes parent, en tout cas, il y a des cases qu'il ne faut pas que vous oubliez de cocher, les conseils de Marion Chapelle-Massot pour ne rien oublier et puis rendre vos enfants utiles sur votre déclaration fiscale, si je puis dire. Au programme, il y a vous. Vous nous écrivez. Ce sujet vous interpelle d'ailleurs. Vous nous avez déjà posé quelques questions. On parlera aussi un petit peu d'IFI et de DPE. On répondra à un de nos auditeurs qui nous demande quelle est la décote liée aux travaux avant-revente nécessaires pour avoir un DPE boussé. Est-ce qu'il y a des manières de rendre ça déductible sans risque fiscaux? Nous vous attendons à l'adresse directe à bfmbusiness.fr ou bien sur LinkedIn. Je suis connectée, vous m'écrivez. On part à Euronext rejoindre Antoine. Cher Antoine, il y a toujours de la pression sur notre CAC 40 à l'approche de la mi-journée. Eh bien, on est en baisse de 0,48% là, avec les résultats. Racontez-nous.
Oui, pression qui a tendance à augmenter un petit peu, c'est vrai. Donc, on descend à 8053 points. On commence à regarder les supports du côté des 8000, comme d'habitude. À noter une baisse encore plus marquée de tout le compartiment technologique, puisque l'Euronext Tech Leaders recule d'1,15%. À noter une baisse de 0,6% du côté du DAX à Francfort et moins 0,43% du côté de l'Eurostock 50. Alors, un petit peu difficile de faire le digest de tout ce qui s'est passé depuis ce matin, parce que les réactions boursières, elles commencent d'un côté, elles finissent de l'autre. Ça part en hausse, ensuite ça corrige à la baisse. Bref, toutes les cartes sont un petit peu rabattues. Figurez-vous quand même qu'il y a un titre qui caracole en tête des progressions, c'est Sanofi, qui gagne 4,2% à 91,40€. Le titre était bien orienté depuis le début de la séance. Mais derrière, on retrouve ST Micro qui gagne 1,7% à 39,91€ après avoir signé à l'ouverture la plus forte baisse du CAC. On était en baisse de 6% après un avertissement qui est quand même resté dans l'esprit des investisseurs, d'autant que le titre avait signé la plus forte hausse du CAC 40 hier. Bon, mais malgré ça, le titre remonte en flèche en ce moment. Un autre titre qui est vraiment très entouré depuis le début de la séance, c'est BNP Paribas, mais vous voyez, plus forte hausse du CAC 40 aussi à l'ouverture. Et le titre là est quasiment à l'équilibre, malgré des résultats qui sont quand même très très bons. Plus 0,1% pour BNP Paribas, on est à 67,80€. Quelques déceptions à signaler. Dassault Systèmes qui recule de 4,4%, 37,22€. Pernod Ricard aussi, chiffre d'activité, moins 2,9% à 140,85 €. L'increvable Hermès subit quand même une baisse, sans doute des prises de profit. Le titre recule de 2,3% à 2299. Et puis on a l'ensemble du secteur du luxe qui suit un petit peu le mouvement. Il était en hausse en début de séance. Là, il repart à la baisse. LVMH, par exemple, moins 1,56. On est en 787,70 €. À noter qu'il n'y a pas de débat autour d'Atos. Atos signe la plus forte baisse du SBF 120 depuis le début de la séance, moins 7,7% à 1,84 €. Et quelques performances marquantes, notamment celle d'Eramet. Alors, c'est vrai, résultat inquiétant, mais aussi une opération géante peut-être dans le domaine de la mine. Le titre gagne 2,1% à 77,75 €. Et puis Verallia signe vraiment une très très belle performance en gagnant 5,9% à 35,96 €. Le CAC, moins 0,47, 8,053 €. L'euro, 1,0728 $.
C'est l'heure de votre histoire, Antoine. Et si on parlait de l'économie réelle un peu?
Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
Et il faut dire qu'on s'est beaucoup occupé ces derniers jours de Tesla, de Meta aux États-Unis, mais au milieu de l'avance des résultats tech et pas tech, eh bien certaines entreprises se dégagent et marquent eh bien une vraie amélioration du sentiment de marché. De qui peut-on parler ?
Oui, parce que derrière les gros titres qui concernent la high-tech, l'IA, etc., bah, il y a aussi l'économie réelle. Et souvent, l'économie réelle, elle sert à financer les investissements futurs. C'est le cas notamment pour l'industrie automobile. Ce sont les ventes de voitures thermiques qui financent la transition vers l'électrique. Alors, du côté des États-Unis, c'est vrai qu'en plus, on était un petit peu comme ce matin, un petit peu paumé ces derniers jours. Vous vous rendez compte, il y a quand même Tesla qui publie des résultats archi décevants, qui prévoit des améliorations, qui prévoit du changement, etc., le titre termine en forte hausse. Meta, hier, c'est exactement l'inverse. Le consensus battu à plate couture. Bon, l'annonce aussi d'investissements nécessaires pour continuer l'avancée vers l'intelligence artificielle. Et alors, tout de suite, le titre s'effondre, moins 13%. Bon, c'est un petit peu le monde à l'envers. Mais ça explique aussi que les investisseurs ont besoin d'assurance, ont besoin de support et de valeur aussi pour se dire que, voilà, on a de véritables baromètres de consommation qui vont nous donner un aspect un petit peu plus fiable de l'économie réelle derrière les gros titres de l'économie quotidienne que sont les Magnificent Seven, etc. Et alors, il y a quelques publications, notamment celle de Whirlpool. Oui, l'électroménager.
Whirlpool,
consensus
ouais.
Pulvérisé sur le premier trimestre. Oui, pulvérisé. Ford, incroyable, consensus battu, alors que Ford se retrouve en plein milieu de la problématique automobile du moment, à savoir, est-ce qu'on n'est pas allé beaucoup trop vite sur l'électrique ? Ford a été l'un des premiers à annoncer « Bon, on va réduire un petit peu nos capacités sur l'électrique, on va accentuer nos capacités sur l'hybride, parce que les dynamiques de développement, elles sont là pour le moment. » Eh bien, c'est payant. Le titre Ford était en hausse en après-bourse et les résultats sont vraiment à l'avenant. Puis Chipotle, ça paraît anecdotique comme ça, mais la consommation américaine, la consommation dans les restaurants Tex-Mex, elle tient le coup. Le consensus est vraiment, vraiment battu en termes de publication de résultats. Et puis, il y a un chiffre aussi ce matin. On a parlé d'énormément de publications de résultats. Il y a un truc qui est complètement passé à l'as. Toyota. Pour la première fois, dépasse en une année les 10 millions de véhicules vendus. C'est
10 millions
dans l'histoire de Toyota, on n'en a pas parlé, pourtant, ça existe, 10 millions. Et exactement, l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi l'avait déjà fait, Volkswagen aussi, Toyota jamais. Eh bien, Toyota a franchi ce cap symbolique. Et du coup, voilà, encore une fois, il est question d'économie réelle, il ne faut pas l'oublier, c'est celle-là qui apporte même du support au marché, au-delà des dynamiques de croissance, c'est vrai, très spectaculaires et très première ligne, des big tech. Et il ne faut pas l'oublier, cette économie réelle, parce qu'elle signe des performances étonnantes en bourse.
On aurait pu aussi parler voiture avec vous. Vous parlez de Toyota. Toyota qui devrait, selon Reuters, s'associer à Tencent en Chine, ce qui nous amène en Chine. Un mot de Xiaomi avec, vous savez, sa voiture, son SUV SU7 là, que vous regardez de près.
Qui se vend très bien, visiblement.
Qui se vend très bien. 75 000 commandes pour cette voiture Xiaomi électrique. Mmh. Et puis surtout, 10 000 livraisons. Ça, c'est l'économie réelle aussi, les livraisons de voitures.
Voilà,
merci
exactement.
Antoine pour ce point, cette histoire financière. L'économie réelle, il ne faut pas l'oublier, elle est bien là. À retrouver en podcast et en replay cette séquence sur notre site et notre application. Et puis Antoine à retrouver en direct dès demain dans Tout Point Investir. Il est l'heure de s'occuper d'immobilier. Il est l'heure d'emmener nos auditeurs là où il fait beau, là où la France est magnifique. Nous allons partir à Ajaccio et à Cannes. Bon, on vous emmène en tant qu'investisseur, pas en tant que touriste. Mais restez avec nous, à tout de suite.
Tout pour investir, la place de l'IMO.
On vous emmène, investisseurs, là où il fait beau, là où l'air est frais. Et là où, en tout cas, on peut parler immobilier. On va parler de Cannes, on va parler d'Ajaccio. Avec Marie. Bonjour Marie-Cœur de Roy.
Bonjour Lorraine.
Et puis notre monsieur Bataille des Villes, Stéphane Briand. Bonjour Stéphane.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes en charge du pôle immobilier chez Net Investissement. Pourquoi organisons-nous un match entre la Côte d'Azur et la Corse, d'une part et d'autre? Racontez-nous ce choix.
Vous l'avez assez bien résumé finalement, Lorraine. L'idée, c'était de vous emmener auprès de la Méditerranée, de récupérer un peu de soleil. C'est le début du printemps, les beaux jours arrivent. Donc je trouvais que finalement la Corse était assez représentative et la Côte d'Azur.
Enfin, c'est comme la baisse des taux, on l'attend le
printemps. Ouais, ça, tout doucement, on y arrive, tout doucement. Donc je trouvais ça pertinent et on va le voir. C'est surtout ces deux régions qui ont beaucoup de similitudes, à commencer par la population de seniors qui est quand même assez omniprésente, que ça soit en Corse, tout comme en Côte d'Azur.
On ça a aussi... change pas ça. Stéphane, parce qu'on a l'impression qu'on a beaucoup de... Enfin, on a beaucoup parlé ces dernières années de l'Atlantique Riviera, compte tenu du réchauffement climatique et effectivement des températures qui l'été grimpent à des niveaux dingues. Est-ce que justement les personnes âgées, cette clientèle finalement, n'est pas en train de se déplacer du coup?
Attendez, là, j'étais en train de promettre la Méditerranée, vous m'envoyez sur la côte atlantique,
je vous emmène en Bretagne. Stéphane, changer de match.
C'est une bonne question, Marie. Il y a cette notion du climat, et c'est vrai que les températures dans le sud, en tout cas l'été, sont quand même assez douloureuses, encore plus pour les seniors. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'ils ont fait le choix ou non d'y rester? Si on reprend les données statistiques, en tout cas la population est encore importante.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est 30% de la population qui sont des retraités aujourd'hui, si on regarde la Corse. C'est un tout petit peu moins à Cannes, donc on a quand même cette proportion qui est importante et qui, pour le moment, se maintient. Quid d'ici 5 ou 10 ans avec ce réchauffement climatique? On peut se poser la question.
Et donc, du coup, donc, on a quand même une population relativement âgée, que ce soit à Cannes ou à Ajaccio. OK, ça, c'est parti. Côté prix, c'est pas la même histoire, quand même.
Côté prix, c'est pas la même histoire. Et puis, alors, je reviens juste sur les similitudes. Ensuite, on parlera un petit peu des
Moi, je préfère les différences.
Ouais, je
trouve que
bien,
c'est ça qui est riche.
Les similitudes. Ça explique un peu mon choix et ça met en avant pourquoi, d'ailleurs, le choix de ces deux villes. En similitude, et c'est, je pense, peut-être la plus importante, c'est qu'on est quand même sur deux régions et surtout deux villes qui reposent essentiellement, et c'est même vital,
sur le tourisme.
Et c'est important. On le voit en Corse, c'est 3 millions de visiteurs chaque année. À Cannes, c'est également 3 millions de visiteurs chaque année. C'est 7 milliards de recettes qui sont issues du tourisme à Cannes. Et ça représente 30% de l'économie locale si on regarde aujourd'hui Ajaccio et la Corse. Donc on a quand même ces similitudes où on a une population de seniors importante. On a un marché économique qui repose essentiellement sur le tourisme.
A fortiori, un peu plus à Cannes ou pas? Parce que je pense notamment au Festival de Cannes, mais à d'autres événements qui peuvent... Typiquement, le MIPIM dans notre secteur de l'immobilier.
Exactement.
On a quand même pas mal d'événements qui se passent à Cannes.
C'est pas pour rien que c'est aujourd'hui Cannes est la deuxième ville des festivals après Paris. Et en effet, elle tisse quand même son économie autour du tourisme, mais autour également, je dirais, des grands événements culturels.
Le tourisme pro, en fait.
Exactement, pro, et au travers, effectivement, de sa croisette et de son mythique festival. Donc, il y a des ressemblances à ce niveau-là.
On a un chiffre qui illustre ça. Il y a 6 hôtels 4 étoiles à Cannes.
5 étoiles.
5 étoiles, pardon. Oui, pardon. 6 hôtels 5 étoiles et 32 hôtels 4 étoiles, c'est ça?
En effet, les chiffres sont quand même assez fous. Je crois qu'il y a une trentaine d'étoiles, 3 étoiles. On est, je pense, sur la quintessence du luxe au travers de son mythique festival, de la croisette, de ses décors de plage, de ses casinos, de ses palaces.
Il faut quand même les faire tourner toute l'année, ces hôtels. Donc ça montre bien qu'il y a ce tourisme.
Après, Cannes va bénéficier aussi finalement du rayonnement économique de Nice, qui est aujourd'hui quand même une véritable métropole. Elle va bénéficier aussi de la proximité avec son aéroport. Cannes aujourd'hui est quand même une ville quand même assez bien située géographiquement. On a mi-chemin entre Monaco et Saint-Tropez. On est proche de Marseille, on est proche des Alpes et on est proche de l'Italie. Donc c'est un peu.
C'est combien pour aller de Paris à Cannes aujourd'hui? Comment on s'organise en train?
Alors ça c'est un peu plus compliqué, mais il y a quand même le TGV aujourd'hui et en termes de distance, on doit être à peu près sur un peu plus de 3 heures.
Ouais.
Donc ça se fait assez bien, sachant qu'il y a d'autres métropoles qui sont desservies comme Toulouse ou encore Lyon. Vous avez le TER aussi qui est présent, qui vient plutôt desservir, je dirais, toutes les communes en périphérie. Donc c'est une ville qui est bien située, qui est bien desservie. Et on va le voir aussi, là on parlait de similitudes, avec un marché immobilier qui est, je dirais, assez singulier. Chose que l'on peut aussi retrouver, je dirais, à Ajaccio, puisque on va être sur des proportions de résidences secondaires qui sont assez importantes.
Vous avez une idée, là, de...
Alors, on a quelques chiffres. Aujourd'hui, notamment, en tout cas, en Corse, c'est le chiffre, en tout cas, est quand même assez important. C'est un tiers des logements qui sont aujourd'hui considérés comme logements vacants.
À Ajaccio, hein. Ouais. Un tiers des logements.
À Ajaccio, on peut même regrouper la Corse, que j'ai même regardé sur Bastia et sur d'autres régions en Corse. Et même dire, les stats sont même plus importantes si on regarde une ville comme Porto Vecchio, qui est tout simplement magnifique. Là, on bascule à deux tiers. C'est-à-dire que deux tiers des logements sont considérés comme une résidence secondaire et donc vacants et principalement destinés à du Airbnb.
Mais alors justement, je vous interromps, Stéphane, mais avec les réglementations, parce que je vais faire ma parisienne, voilà, à quel point la réglementation peut être stricte en fonction des communes. On sait que plus on va aller, là il y a eu un projet de loi qui a été voté qui va donner plus de pouvoir aux communes pour acter de leur réglementation propre à la commune. On en est où du côté de Cannes et du côté d'Ajaccio?
Il n'y a pas de changement majeur pour le moment. Vous en parlez, Marie, ces lois, elles arrivent, elles vont donner plus de pouvoir en effet à la commune, à l'agglomération, pour pouvoir dicter un petit peu ce qui est faisable ou non d'un point de vue de la location saisonnière. Pour le moment, Cannes n'est pas réellement encore impacté. C'est pas le cas non plus en Corse, qui est même mis un peu de côté pour le moment.
Mais ça veut dire que je peux louer ma résidence secondaire sans problème?
Oui. En respectant en tout cas tous les critères aujourd'hui qui sont imposés via Airbnb, mais en tout cas c'est possible et c'est réalisable.
Non, parce que Paris, pour le coup, c'est plus le cas. Aujourd'hui, Paris, on ne peut pas louer sa résidence secondaire sur Airbnb. Enfin, il y a des moyens d'y échapper, mais c'est trop compliqué. Donc bon, voilà. On va partir du principe qu'on ne peut pas.
Non, là c'est encore possible en tout cas en Corse et aujourd'hui à Cannes.
Et donc là, on parle de quel type quand on parle de cette proportion de résidence secondaire, de l'attrait pour Airbnb, notamment parce qu'on est sur des villes de touristes. Est-ce que là, on parle d'un investissement locatif en vue justement de faire de la location saisonnière, ou est-ce que là on est en train de parler avec vous, Stéphane, d'une location traditionnelle?
Alors moi j'envisage toujours les deux. Forcément on s'adresse à des investisseurs qui vont être forcément tentés par le saisonnier, puisqu'on va, la recherche du rendement oblige. Néanmoins, et c'est surtout le cas à Ajaccio et à l'échelle de la Corse de façon générale, on a aujourd'hui une vraie pénurie de logements à l'année sur la location classique, donc en nu ou en meublé. Donc c'est là aussi où on le verra, Ajaccio s'en sort quand même assez bien en termes de notes, puisqu'on va y venir quand même sur le résultat, même si on a tendance à beaucoup développer
avant
au début.
Le résultat, avant je veux le prix résultat. Moi non parce que j'ai commencé par le prix, vous n'avez pas voulu me répondre, Stéphane. C'est quoi les prix? Alors, à Cannes et à Ajaccio,
on va quand même parler des prix, Marie, je sais que c'est important, et en effet
je rappelle
les prix...
que cette chronique ne fait pas une demi-heure, hein, donc il faut qu'on réponde quand même à nos auditeurs. On a promis une promesse d'investissement, où c'est on vrai. Va pourquoi donc
En termes de prix, ça va d'ailleurs répondre un petit peu aux notes, je pense que c'est là-dessus où la Corse et surtout Ajaccio, je dirais, se démêle, puisque on est globalement à 4 500 € du mètre carré pour un appartement aujourd'hui à Ajaccio. On va passer légèrement les 5 000 € du mètre carré pour une maison. Si on compare ensuite à Cannes, où là les prix sont quand même assez disparates, mais si on fait quand même une moyenne, on est globalement à 6 000 € du mètre carré pour un appartement. Je dis bien en moyenne.
En moyenne,
on va voir dans le détail ensuite. On va dépasser les 7 000 € pour une maison. Et si ensuite on regarde vraiment au cas par cas, notamment le boulevard de la Croisette, qui est peut-être l'avenue la plus célèbre à Cannes.
C'est les Champs-Élysées cannois, quoi.
Exactement. On va dépasser très facilement les 10 000 euros du mètre carré.
Enfin bon, c'est pareil, qui a envie de vivre sur les Champs-Élysées à Paris, à part d'être Qatari ou d'être une banque, je veux dire.
Récemment, Nathalie Portman, je crois, qui investit dans un très bel hôtel particulier. Ouais. Mais bon, voilà.
Oui, mais là, comme on n'est pas Nathalie Portman.
Non, malheureusement, non. Mais. Non, c'était pas.
On voit le hiatus quand même entre les prix d'une part à Ajaccio et à Cannes. Ce différentiel, il est aussi lié à la taille des deux villes. On compare deux villes qui n'ont pas la même taille.
C'est vrai.
Redonnez-nous
mais qui
un
ont quand même une population quasiment identique. On est 72 000 habitants à Cannes, on est à 75 000 habitants à Ajaccio.
Ajaccio qui a explosé ces dernières années.
C'est assez fou, c'est plus 67% de l'augmentation de la population au cours des 50 dernières années. C'est assez fou.
C'est l'évolution démographique. C'est des Corses qui se concentrent sur la ville d'Ajaccio, c'est des gens du territoire, du continent, pardon, qui sont venus en Corse.
Si on regarde les flux migratoires, finalement, c'est un joli mix. On a en effet beaucoup de Corses qui ont fait le choix de quitter Bastia, en tout cas de vraiment aller sur Ajaccio, qui devient, je dirais, de façon naturelle, la première métropole en Corse. Et on a aussi, en effet, des métropolitains, beaucoup de retraités notamment, ou en tout cas d'actifs, mais proches de la retraite, qui font le choix de venir s'y installer.
Bon, et au final, les notes, Ajaccio gagne de combien? Parce qu'on sait qu'a priori, il gagne.
Peu quand même, mais c'est Ajaccio qui gagne avec une note moyenne, on va dire, de 12,8 sur 20. Cannes est juste derrière, avec 12,4 sur 20.
Bon, c'était un chouïa.
C'était quand même un match quand même assez serré. Je reviens juste sur Ajaccio, parce que c'est quand même un point qui est pour moi quand même essentiel. Je vous parlais de l'augmentation au cours des 50 dernières années. On est encore aujourd'hui sur un solde migratoire qui est positif. C'est plus 1,2% chaque année. C'est quand même énorme, si on compare à la moyenne nationale. Oui. Et en plus de ça, selon l'INSEE, à horizon 2030, Ajaccio devrait frôler les 80 000 habitants.
Un aspect qu'on n'a pas abordé d'Ajaccio, c'est que pour ceux qui ne connaissent pas particulièrement cette ville de Corse, c'est une ville où il y a beaucoup d'immeubles.
Tout à fait.
On est sur une ville d'appartements.
Exactement.
Est-ce que le ratio d'immeubles et d'appartements est aussi important à Cannes concrètement, il y a 90% d'appartements.
C'est ça, aujourd'hui à Ajaccio. Non, on va avoir quand même plus d'appartements aujourd'hui à Cannes, mais le ratio quand même s'inverse. On est de mémoire à 60% d'appartements, le reste sous forme de maisons. Donc en effet, Ajaccio, c'est un petit peu sa particularité.
On n'est pas sur le cliché qu'on se fait de la Corse avec la maison.
Non, ça ne sera pas Ajaccio, mais on a quand même Ajaccio, c'est une véritable ville, c'est sans doute peut-être la seule, je ne veux pas contrarier Bastia, mais en tout cas, on a une véritable vie, il y a une restructuration assez profonde au niveau de l'aménagement urbain, des équipements, puisque forcément, Ajaccio anticipe et se restructure en vue de cette croissance démographique qui est quand même assez soutenue, donc il y a quand même des projets qui devraient améliorer, parce que c'est vrai qu'il y a quand même quelques problématiques liées à la vie aujourd'hui à Ajaccio. Je ne parle pas forcément que de la délinquance, je parle aussi, je dirais même, de la vie au travers de ces bâtiments. C'est quand même assez dense. Ouais. Et donc la ville, en tout cas, l'agglomération, la communauté, tente en tout cas à restructurer le
Mais du coup, Corse. Moi, je rebondis sur ce que disait Lorraine, qui est hyper intéressant. C'est que du coup, là, on est sur une ville qui, même s'il y a toujours l'attrait touristique, on est bien d'accord, mais vous parliez de Porto Vecchio, c'est peut-être plus l'image qu'on se fait de la résidence tourisme. Et donc là, en termes d'investisseurs, oui. Là, on va s'adresser à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, quel type de stratégie d'investissement en fonction de la ville? C'est-à-dire, est-ce que typiquement, Ajaccio, je fais plutôt un investissement long terme sur une location nue ou meublée, mais longue durée? Et est-ce que Cannes, j'opte pas plus pour de la location saisonnière? Est-ce que ça devrait réorienter un tout petit peu
Vous avez même quasiment répondu à la question, Marie, avec la question, mais c'est comme... bravo. Non, mais si on regarde vraiment, je dirais, le profil d'investisseur et même du coup de locataire qu'on va avoir, que ce soit à Cannes ou à Ajaccio, compliqué pour un néophyte d'aller tout de suite sur du saisonnier, parce qu'il y a quand même des frais, je dirais, c'est assez chronophage et ça peut être assez...
Un turnover qui est compliqué.
Voilà, du coup, une gestion qui, du coup, soit on est sur place ou on ne l'est pas et on passe par une conciergerie, donc c'est vrai que pour des néophytes, ça peut être compliqué. Je dirais que plutôt à Ajaccio, il faudrait peut-être plutôt tendance à s'orienter sur un investissement, je dirais, assez classique, en nu ou en meublé. Là, aujourd'hui, on a une forte demande locative, puisqu'il y a une pénurie de logements disponibles à l'année. À l'inverse, en tout cas, si on s'intéresse à Cannes, et vu les budgets, on ne sera a priori pas non plus sur un investisseur néophyte, mais plutôt sur un second, un troisième investissement. Il y a aussi la notion aussi d'investissement plaisir, à Cannes aussi à Ajaccio, qu'on peut retrouver, peut-être un peu moins Ajaccio, un peu plus à Cannes. Mais néanmoins, on va être plutôt orienté sur un investisseur avec une surface de financement plus importante, qui, lui, peut s'intéresser à du saisonnier, mais également la location nue. Sachant que je termine peut-être juste là-dessus, on parlait des prix au mètre carré. Si maintenant on regarde un petit peu les rendements qu'on va retrouver notamment à Cannes, on va être globalement sur un rendement locatif brut entre 4,4 et 4,6%.
Alors qu'à Ajaccio,
on est globalement entre 4 à 5%, c'est assez disparate selon la typologie du bien.
Mais donc c'est masso menos la même chose.
C'est exactement effectivement la même chose, même si on a un marché locatif qui est quand même plus tendu aujourd'hui à Ajaccio, je parle sur une location classique à l'année, comparé à Cannes.
On déborde, avec une dernière question quand même qu'on est obligé d'évoquer. On parle de la Corse. Vous nous avez dit un tiers des logements vacants en Corse. C'est encore pire à Porto Vecchio, où vous nous disiez c'est deux tiers. La ville d'Ajaccio qui a explosé en quelques années. Il y a forcément aussi cette logique de est-ce qu'on a envie d'accueillir des investisseurs, qu'ils soient de France, du continent, aussi volontiers pour faire de la location touristique, alors que on est sur un territoire qui est quand même loin. Je veux dire, il faut quand même aller à Ajaccio, il faut prendre l'avion, à moins que vous soyez marseillais comme vous et que vous ayez la chance de pouvoir y aller en bateau. Comment on appréhende ce marché, comment on s'y projette quand on n'est pas corse, pour le dire très simplement.
Et c'est justement ce qui effraie, je pense, la plupart des investisseurs, puisqu'en effet, il y a quand même cette notion de distance.
Et puis il y a l'image des Corses quand même.
Voilà, j'allais venir tout de suite, mais tout doucement quand même. Ouais. J'allais en disant il y a quand même la distance qui peut en effrayer plus d'un. Et ensuite, en effet, on doit quand même le dire, il y a aussi un peu l'image que véhicule la Corse. Donc en effet, ça je pense, ça en
rebute un certain nombre.
Un certain nombre.
Mais vous nous dites, c'est pas parce que vous êtes de métropole qu'il y a des problématiques d'investissement et que l'accueil sera moins chaleureux.
Je quand même là-dessus, mais pour moi c'est valable pour n'importe quel investissement immobilier. Il faut bel et bien maîtriser l'aspect gestion locative qui est pour moi en tout cas essentiel et est très important en Corse. Parce que la distance l'oblige, le contrôle sera quand même moins bien fait. Donc là, il faut en effet bien sélectionner son gestionnaire. Mais c'est tout à fait possible et réalisable, sachant que pour rappel, que l'on soit à Toulouse, à Bordeaux, à Lyon, en Corse ou en Bretagne, en Normandie, dans tous les cas, généralement, l'investisseur n'est pas amené à venir régulièrement solliciter son bien. C'est le travail de l'agence au quotidien.
Voilà, on finit avec, pour ceux qui nous suivent en images à la télé ou en replay, avec le port d'Ajaccio derrière nous, le port Charles d'Ornano.
puisqu'on a dit qu'il y avait 90% d'appartements à Ajaccio, il y a le port, où c'est difficile de voir, d'imaginer qu'il y a autant d'appartements, autant d'immeubles à Ajaccio. Merci à tous les deux pour ce match, puisque c'est un match qu'on organise avec vous, Steven, régulièrement. Je vous rappelle les notes. Ajaccio, très correct, 12,8. Cannes, pas mal aussi, 12,4. En tant qu'investisseur, comment appréhender, comment regarder ces marchés immobiliers du sud de la France. Chère Marie, à demain pour une demi-heure.
Oui, et on aura Olivier Principal, le patron de la FNIM du Grand Paris, mais on restera pas qu'à Paris et en Ile-de-France, mais ça sera quand même assez symptomatique de toutes les problématiques du moment. Je vous parle DPE, prix, location, tout ça, on va en parler. Et on sera évidemment accompagné par quelqu'un de formidable qui est Virginie Grollo, journaliste à Challenge.
Il y a Patrick sur LinkedIn qui vous salue, Marie, et qui nous envoie un sujet pour vous à propos du microfoncier. Oui, cher Patrick, on va en reparler de ce microfoncier. On va travailler dessus avec Marie et toute l'équipe. Merci Stéphane Briand et l'équipe
plaisir,
de Net Investissement avec nous pour ce match des villes. À dans un mois pour un autre match. J'espère aussi intéressant. Vous restez avec nous, on marque une petite pub et après c'est jeudi. Private Equity, nous allons zoomer sur le secteur du logiciel. Pourquoi est-ce que le non-coté s'intéresse d'aussi près au logiciel? Réponse avec l'équipe d'Opale Capital. À tout de suite.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumaud.
Tout pour investir en private equity. C'est jeudi. On aime bien parler de private equity le jeudi sur BFM Business. Et aujourd'hui, nous allons traiter ce sujet avec Paul Moreno-Blosseville. Bonjour Paul.
Bonjour Lorraine.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président d'Opale Capital. On va parler private equity, mais surtout, on va vous poser une question. Pourquoi est-ce que le private equity s'intéresse autant au secteur du logiciel? Alors, on va faire le portrait de ce secteur du logiciel. Et puis, avec votre œil d'investisseur en PE, vous allez nous dire qu'est-ce qu'il faut surveiller pour estimer si ça vaut le coup d'y aller sur telle ou telle entreprise. Alors d'abord, pourquoi le logiciel est un secteur intéressant?
Alors, la réponse la plus simple, c'est positionné sur un secteur qui est en très forte croissance. Quand vous prenez l'économie dans son ensemble, le PIB d'un pays, ça croît à entre 0 et 4%, et 4% vous êtes déjà très bien. Les logiciels, c'est un secteur qui, depuis par exemple les 6 dernières années, ont cru plutôt de 6%, et après il y a aussi de 16%.
Ah oui,
c'est beaucoup mieux, ouais. Et en fait, dans les logiciels, vous avez aussi une sous-catégorie qu'on appelle les SaaS, que je vais définir à l'instant, mais qui, elle, croît encore plus. C'est de 20 à 30% de croissance par an.
Les SaaS, le SaaS, on en parle régulièrement sur notre antenne, ce sont tous les logiciels sur abonnement, ceux qu'on paye mensuellement ou annuellement, que ce soit en B2B ou en B2C. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition un peu large de ce qu'on appelle le logiciel?
Le logiciel. Le logiciel, c'est une application qui vous permet de gérer un de vos besoins. Et ça, ça peut être très très large. Je vous donne peut-être 3-4 exemples.
Allez.
Qu'est-ce que je vais utiliser comme logiciel pour gérer une chaîne d'approvisionnement? Eh ben, je vais utiliser un logiciel qui va me détecter pour une charge donnée, pour un produit donné, quel est le meilleur nœud suivant. C'est-à-dire, est-ce que je vais plutôt charger ça sur un camion ou sur un train ou sur un bateau, de façon à faire mes économies de coûts et aussi d'empreinte carbone. Donc ce logiciel me permet de piloter ma chaîne d'approvisionnement de façon la plus économe, rapide et donc économe aussi en carbone possible. Un deuxième exemple, je suis un entrepôt logistique. Et dans un entrepôt logistique, j'ai besoin de gérer des flux de produits, des flux sur des machines, des camions et des hommes. Et en fait, vous allez avoir des logiciels qui vous gèrent tous ces éléments de la chaîne d'approvisionnement qui arrivent, de la chaîne d'approvisionnement qui part, et tout ce qui se passe au sein de votre entrepôt de logistique. Sans ce logiciel, je ne peux pas opérer cet entrepôt. Voilà, c'est très simple. Un troisième exemple, donc ça je peux vous parler moi de mon expérience personnelle chez Opale Capital. On utilise un logiciel qui s'appelle HubSpot, qui est un CRM, donc un logiciel qui gère la relation client.
C'est le logiciel qui équipe le secteur du private equity.
Exactement. Pourquoi est-ce qu'on utilise ça? C'est parce que en fait on a de multiples contacts avec des dizaines et des dizaines et des centaines de personnes. Et que retenir tout dans notre tête, c'est pas possible. Retenir tout sur un calepin, c'est pas organisé. Sur Excel, ça vole en éclats. J'ai besoin de quelque chose qui veut me permettre de gérer mes flux d'appels sortant, entrant, d'avoir dans un endroit toute l'information que je connais sur ce client.
Voilà, très concrètement, le logiciel, c'est littéralement l'illustration de la transformation numérique de notre entreprise. Ça concerne les entreprises de toute taille. On parle de faire tourner la boîte, oui. On parle d'efficacité, de modernisation, d'automatisation aussi. Et puis tout ça, en fait, à moindre coût, parce que quand on passe par un logiciel, on n'a pas besoin de développer toute une infrastructure numérique complexe.
Exactement.
Voilà pourquoi on s'intéresse à ce secteur avec vous. Alors maintenant, on va se remettre dans les chaussons de l'investisseur. Pourquoi est-ce qu'on regarde ce secteur ? Vous allez nous parler de marge d'abord.
Absolument. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde le secteur des logiciels qui sont cotés en bourse, vous avez quelques très beaux noms, quelques pépites, HubSpot en fait partie, je l'ai mentionné. Vous avez quelques sociétés comme ça qui sont en forte croissance sur les revenus et qui sont positives, qui génèrent une marge positive. Vous avez parmi toutes les sociétés cotées et qui font du logiciel, la médiane est plutôt en perte. Et quand vous construisez un index, donc il y a des index qui existent qui regroupent toutes les sociétés cotées qui font du SaaS, comme cet index il est plutôt en marge négative, en perte. Eh bien, en fait, vous êtes très sensible à toutes les fluctuations de marché. Mmh. Vous êtes sensible au fait que, tout d'un coup, la croissance de revenus baisse un peu. Vous êtes sensible au fait que les taux d'intérêt remontent assez violemment, comme on l'a eu ces derniers temps. Et en fait, vous avez donc un index de sociétés SaaS coté qui est extrêmement volatile. Donc, si, c'est la situation quand vous êtes coté et non rentable. Donc finalement, nous, ce qu'on va regarder, c'est il faut être extrêmement sélectif sur les sociétés sur lesquelles on va investir. J'ai mentionné les taux de croissance du secteur qui sont fantastiques, mais en fait, cette croissance fantastique fait que cette volatilité, moi, elle ne me convient pas. Et donc c'est pour ça que je vais rechercher les sociétés qui sont à forte marge.
À forte marge. Il y a aussi un aspect qui vous plaît en tant qu'investisseur private equity, c'est le fait qu'il y a beaucoup de potentiel d'opérations de fusion et d'acquisition. C'est un marché mouvant avec des regroupements. Et ça, expliquez-nous pour les investisseurs non professionnels pourquoi ça vous plaît.
Alors, quand on rentre dans une opération de private equity, y a trois choses qu'il faut regarder. Un, c'est est-ce que cette société vaut le coup ? Deux, est-ce qu'il y a du potentiel ? Est-ce que je vais pouvoir en faire quelque chose quand elle sera dans le portefeuille de mon fonds ? C'est-à-dire, est-ce que je vais pouvoir faire une augmentation de son profil stratégique qui fait que les profits vont être plus élevés et donc sa valorisation va être plus élevée ? Et troisième chose, et en fait c'est ça qui est critique, c'est est-ce que je vais pouvoir la vendre ? Parce que si je ne la vends pas, je ne vais jamais pouvoir matérialiser la plus-value.
S'il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de private equity.
S'il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de private equity. Et ce secteur, il est magnifique aussi pour ça, c'est que c'est un secteur extrêmement actif en termes de fusion-acquisition. On a des acteurs stratégiques, c'est-à-dire des acteurs du secteur qui sont extrêmement actifs sur l'acquisition de nouvelles sociétés. Quelque part, en fait, ils ont externalisé leur recherche et développement et quand ils font une opération de fusion-acquisition, ben, en fait, ils ont réinternalisé ce département R&D chez eux. Donc c'est une façon pour eux de continuer à être pertinents dans un monde qui innove en permanence.
On parlait de fusion-acquisition, on a traité en début de semaine avec Antoine Larigonnery le capotage du rachat d'Informatica par Salesforce. Alors on est sur des entreprises cotées évidemment. Voilà, on essaie de décortiquer pourquoi le logiciel intéresse en particulier les investisseurs en non-cotés. On comprend que la volatilité qui est très forte quand on parle d'entreprises cotées l'est un peu moins sur des entreprises non-cotées. Maintenant il y a quelques risques aussi qui concernent spécifiquement les investisseurs non cotés et le logiciel. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns ?
Oui, bien sûr. Je dirais qu'il faut, compte tenu de l'ampleur de ce secteur et du fait que, le fait que les sociétés cotées ne sont pas rentables en moyenne, c'est une réalité qui reflète quelque chose de ce secteur. On a eu des excès du fait de l'argent gratuit pendant une décennie qui ont fait que la croissance à tout prix est devenue une espèce de logiciel dans le logiciel. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas très sain, en tout cas vu du point de vue de l'investisseur en private equity. Donc il faut être extrêmement sélectif. Et donc il faut aller regarder énormément de choses pour se rassurer. Première chose, c'est est-ce que cette société a des marges positives ? Deuxième chose, est-ce que la technologie qui est utilisée pour faire ce logiciel, est-ce qu'elle est encore à jour ou est-ce qu'elle est déjà dépassée? Est-ce que vous avez des barrières à l'entrée qui vous permettent d'être relativement serein sur les cycles d'innovation? Mm-hmm. Ou est-ce que la nouvelle société qui se développe est capable de venir prendre votre marché? Donc il y a énormément de choses effectivement qui peuvent mal se passer. Et donc c'est pour ça que, avant d'investir dans une société de logiciels, le secteur est très attractif et ça peut très bien se passer, mais il faut être extrêmement sélectif, faire très attention à ce dans quoi on met les pieds. Et donc il faut ce qu'on appelle les due diligence, qui est donc l'étude approfondie avant d'investir, celle-là, elle est clé. Cette phase est absolument clé.
On comprend la difficulté de la due diligence parce qu'il y a autant de logiciels que de secteurs, on va dire. Peut-être pas autant que d'entreprises, c'est ça la magie, c'est qu'un logiciel peut servir plusieurs entreprises dans un secteur, mais il y a quasiment autant de secteurs que de logiciels. On parle de technologie, par définition, un logiciel et un SaaS, ce sont des technologies qui sont mises à jour tout le temps. Oui. Comment en interne, dans les fonds de private equity, vous arrivez à avoir la compétence technique de justement savoir si la technologie du logiciel que vous surveillez de près est à jour et valable dans les prochaines années?
Vous avez deux approches. La première approche, c'est de recruter dans l'équipe d'investissement des anciens de boîtes de logiciels et donc en fait des gens qui ont un vernis tech extrêmement, extrêmement approfondi.
Peu importe le secteur, oui. La tech.
Et eux vont pouvoir avoir les bons réflexes. Ça, c'est une façon de faire. Il y a une deuxième façon de faire, c'est de s'associer avec des experts. Par exemple, moi, je discute avec un fonds d'investissement qui a recruté dans son équipe d'experts l'ancien Chief Technology Officer de Visma. Pourquoi Visma, c'est une société qui opère dans le logiciel. Et en fait, elle a la particularité d'avoir été extrêmement active dans les fusions-acquisitions. Elle a acquis plus de 200 sociétés depuis sa création. Et qu'est-ce que le fait d'avoir cet expert à disposition fait? C'est qu'en fait, lui, il a analysé des centaines de sociétés avant d'investir chez elles. Et donc à analyser toute la couche logicielle d'un point de vue tech avant de se dire non, en fait cette technologie elle est fragile. Mm-mm. Ou alors non, au contraire, cette technologie elle est vraiment à la pointe, elle apporte vraiment quelque chose qui ne sera pas apporté par les concurrents et donc elle a vraiment un avantage compétitif.
Bon, il y aurait mille choses encore à dire. C'est sûr que tout le monde n'est pas un ancien exécutif de Visma, un ancien champion du cloud. En termes d'investisseurs particuliers, pour finir cette séquence, Paul, qu'est-ce qu'on peut regarder quand on réfléchit à mettre des billes dans une entreprise du secteur logiciel, du logiciel, peut-être dans la grille de lecture qu'on peut avoir? Est-ce qu'il n'y a pas deux, trois choses plus faciles à lire que finalement la technique pure et dure?
Alors moi j'ai plusieurs points dans ma recette que je vais vous livrer. Quand j'ai investi moi dans un fonds, si ce que je veux c'est un fonds qui investit dans le logiciel, je vais favoriser les fonds qui sont spécialistes du logiciel, c'est-à-dire qui n'investissent pas dans autre chose.
Les pure players logiciels.
Exactement, les pure players, parce que justement ce secteur il est compliqué à lire et on a besoin d'expertise. Donc moi j'investis dans ceux qui ont développé ces expertises et qui ont dans leur équipe en fait toutes les compétences qu'il faut pour analyser correctement cette société.
Quoi d'autre?
Deuxième chose, je veux un fonds qui a démontré sa capacité à choisir des logiciels qui sont ce qu'on appelle en anglais mission critical, c'est-à-dire qui sont critiques pour la survie de l'entreprise qui l'utilise.
Si l'entreprise n'est pas outillée, elle va mourir.
Exactement. Donc je vous ai parlé par exemple de ces logiciels qui gèrent les entrepôts d'approvisionnement. On sait très bien que ces entrepôts, sans le logiciel qui gère l'entrepôt, ne tournent pas. Ça, c'est mission critical. Et en fait, ça, c'est ce que j'aime bien, moi, quand je vais investir dans un fonds de private equity.
On parlait de SaaS.
L'expertise et une capacité à bien sélectionner les entreprises.
On parlait de logiciels sur abonnement. Quand on s'intéresse particulièrement au SaaS, il y a cette notion d'abonnement qui est importante aussi.
Et qui en fait tout l'attrait d'un point de vue modèle d'affaires. Quand vous avez un abonnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire récurrence des revenus. Et qui dit récurrence des revenus, pour le financier que je suis, c'est magnifique. Parce qu'en fait, vous avez une prédictabilité extraordinaire. Et donc, vous savez à quel point vous allez générer des revenus aujourd'hui, demain, après-demain. Et donc, en fait, finalement, vous avez cette prédictabilité qui est faite par la récurrence du revenu Et si vous êtes capable d'analyser que justement le taux de déséquipement est extrêmement faible, alors vous avez là en fait de quoi gérer une boîte de façon assez simple.
Voilà, quelques éléments pour que vous aussi, investisseurs particuliers, vous puissiez vous projeter en tant qu'investisseur dans le secteur du logiciel. Merci beaucoup, Paul Moreno-Blosseville, d'avoir été avec nous. Vous êtes le président d'Opale Capital. Avec nous depuis le début de l'émission. On a démarré une de nos premières semaines de Tout pour investir avec vous. Je vous remercie d'être toujours parmi nos experts, cher Paul. À bientôt sur un autre sujet. Le Private Equity, c'est le jeudi dans Tout pour investir. Vous avez des questions, des réactions. Vous voulez qu'on zoome sur un secteur. Vous avez une question qui concerne le Private Equity, que vous soyez un investisseur avec des gros tickets ou avec des petits tickets. N'hésitez pas. Direct à bfmbusiness.fr ou sur LinkedIn. Je vous lis en message privé. À suivre, on s'occupe de vos impôts. Vous avez des enfants ? Non, c'est le moment de ne pas oublier que vous êtes parents quand vous remplissez votre déclaration de revenus. À tout de suite.
Tout pour investir. Investir autrement.
On s'occupe de vos finances personnelles. La période déclarative a démarré il y a quelques temps maintenant, le 11 avril. Vous êtes peut-être très serein quand il s'agit de faire de votre déclaration de revenus. Vous êtes peut-être, au contraire, en crise d'angoisse structurelle depuis le 11 avril. En tout cas, sachez que si vous êtes parent, il faut rester branché. Parce que nous allons nous intéresser aux cases qu'il ne faut pas oublier. Si votre progéniture peut vous servir à baisser vos impôts, c'est toujours intéressant. Au-delà de tout l'intérêt qu'il y a à avoir des enfants. N'est-ce pas, Marion ?
Tout à fait, Lorraine.
Bonjour Marion Chapelle-Massot, vous êtes directrice du cabinet de conseil en gestion privée d'Ecarion, avec nous pour parler impôts et enfants. Il y a des cases qu'il ne faut pas oublier. Alors, vous êtes peut-être en train d'accompagner quelques-uns de vos clients dans cette logique de déclaration fiscale. Et comment on peut oublier qu'on a des enfants dans sa déclaration ?
Bah, figurez-vous qu'on le remarque de plus en plus. Certaines personnes oublient tout simplement de mettre à jour la composition de leur foyer familial sur les premières pages de la déclaration de revenus, si vous la faites évidemment via Internet.
Normalement, c'est les pages où on est encore un peu frais.
Normalement, vous devez vérifier pour autant que tous vos enfants sont bien inscrits sur cette page-là, parce que il faut savoir que si vous avez un enfant au cours de l'année, vous avez 60 jours pour l'enregistrer sur votre espace impôt.gouv, ce qui peut vous générer des économies, notamment en termes de prélèvement sur les acomptes de prélèvement à la source, etc. Et donc effectuer une mise à jour au cours de l'année. Mais il faut bien, évidemment, en mai qui suit l'année de la naissance de votre enfant, vérifier qu'il apparaît bien au sein de votre foyer pour évidemment une question de part.
On va pas pouvoir couvrir tous les aspects forcément de ce sujet, mais on va parler des petits-enfants et des grands-enfants. Parce que si vous avez des enfants majeurs, ça vous concerne aussi ?
Alors, concernant les enfants majeurs, les principales erreurs qu'on note, ce sont déjà, on oublie de cocher les cases comme quoi ils sont scolarisés au collège, au lycée ou en études supérieures. Il faut quand même savoir que c'est 61 euros de réduction d'impôt pour le collège, 153 au lycée et 183 pour l'enseignement supérieur.
C'est déjà ça ?
Absolument. C'est pas des grandes réductions d'impôt, mais il n'empêche que si vous oubliez de cocher la case, elles ne sont pas appliquées. Alors ensuite, en termes d'enfants majeurs, un problème aussi que l'on peut constater, c'est qu'en fait, dans la première page, on vous demande si votre enfant majeur habite chez vous. Si toutefois votre enfant majeur est étudiant et que vous payez pour lui un appartement dans la ville où il étudie, vous devez absolument noter son adresse, parce que il va y avoir un impact sur la taxe d'habitation. Si vous déclarez votre enfant majeur étudiant chez vous avec la même adresse, ce qui est plus simple à la base, parce que ça vous évite d'écrire l'adresse du local, eh bien, vous risquez de payer la taxe d'habitation de logement étudiant. Donc pour cela, cette année, en termes de nouveautés, il n'y a pas beaucoup de nouveautés en matière de déclaration, mais cet élément-là apparaît un peu plus visible sur l'accès.
Un peu plus clair. On a pas mal de questions d'auditeurs qui ont des enfants étudiants, que ce soit en stage ou en alternance. Est-ce que vous pouvez, en quelques phrases, nous dire ce qu'il faut ne pas oublier pour ces enfants alternants qui commencent à gagner leur vie ou en stage qui ne la gagnent pas tout à fait ?
Alors, c'est un sujet intéressant parce que quand il faut bien faire la différence entre mon enfant qui, par exemple, est majeur ou pas d'ailleurs, mais qui est en droit de travailler et qui a eu un job d'été l'an passé, par exemple, l'été, bon, ou pendant les vacances scolaires, etc. Et celui qui suit ses études en alternance, qui a donc un contrat et qui est payé pour cela. Donc ça, c'est vraiment deux caps différents. Quand on a un job d'été, moyennant une rémunération, le plafond de rémunération pour lequel on est exonéré est de 5204 euros en 2023. Donc il ne faut pas que votre enfant ait gagné plus de 5204 euros, auquel cas, il vous faut déclarer dans la case que le surplus, d'accord, de ces, de l'abattement, enfin l'exonération va pas s'effectuer d'elle-même en fait. Hein. Il faut déclarer le surplus.
5204 euros, on peut pas mettre des chiffres ronds.
Oui, il y a forcément, c'est sûr. C'est une actualisation, je pense, de barème qui fait que avec une actualisation de 4,8% par exemple pour les tranches de barème à l'impôt sur le revenu cette année, bon ben on est sur des chiffres un peu aléatoires.
Marion.
Alors simplement, je rappelle que pour les revenus apprentis. D'apprentissage, donc contrat d'apprentissage, eh bien, il faut évidemment que votre enfant ait moins de 25 ans pour que, au 1er janvier 2023 pour que ce soit applicable. Et ensuite, là, le plafond est un peu plus élevé, puisqu'il est à 20 815 euros pour être exonéré. Attention, un point très important, si votre enfant est en contrat de professionnalisation et ils ne sont pas visés par ces mesures d'exonération.
Vous avez entendu, contrat de professionnalisation, ça ne s'applique pas. Il y a beaucoup de nos auditeurs qui nous partagent leurs problèmes patrimoniaux et fiscaux liés à un divorce. Si on a divorcé cette année,
ouais,
qu'est-ce qu'il se passe concernant la déclaration de mes enfants ?
Alors, c'est le fameux mystère de la case T. Cette case, attention, cette case T n'est jamais remplie par défaut. Jamais. Même si vous l'avez rempli l'année dernière, il vous faut la cocher cette année. Et cette case T, elle peut quand même vous octroyer, nous l'oublions pas, une demi-part supplémentaire en plus de la demi-part de votre enfant.
D'accord.
Et donc, vous avez divorcé dans l'année.
Alors, dans l'année, ça veut dire là, on est au mois d'avril.
Oui.
C'est-à-dire, j'ai divorcé en février, ça s'applique pour moi ?
Ah non. Parce que là, on est en 2024. On regarde la situation au 31-12-2023. Et ça, l'administration est bien claire sur l'application, le mode opératoire de cette case T. Il faut que vous, et que vous viviez seul. Attention, Lorraine, vivre seul ne veut pas dire en concubinage. Donc, si par exemple, vous êtes en concubinage, mais vous vous dites ça se verra pas, si votre concubin déclare la même adresse, d'accord, sur sa propre déclaration, puisque les concubins n'effectuent pas de déclaration ensemble, eh bien, l'administration, attention, va vous revenir vers vous et vous indiquer que vous n'avez pas droit à cette demi-part supplémentaire. Et si vous êtes divorcé, chaque parent a droit à cocher cette case T. Souvent, l'année du divorce, on est seul des deux côtés. Et donc, chaque parent peut bénéficier de cette demi-part, sachant que dans ce cas précis, les enfants, par exemple, la demi-part des enfants ne sera qu'un quart de part, puisque elle sera réputée en garde alternée.
Voilà, cette case T, ces mystères démystifiés avec vous, Marion Chapelle-Masseau. Je précise que si vous avez besoin d'aide, il y a quand même pas mal de choses qui marchent pas mal. D'abord, télécharger l'application, un peu en point gouv, qui fonctionne pas mal, il faut le dire. Absolument. C'est pas mal fait. Et puis, vous pouvez aussi appeler des gens, comme Marion. Ou même merci, votre Lorraine. Comptable ou un avocat fiscaliste, ou continuer à écouter Tout pour investir parce qu'on s'occupe de vos impôts. Merci Marion Chapelle-Masseau, vous êtes directrice du cabinet Descarillon, avec nous régulièrement sur notre antenne pour parler des sujets qui fâchent. Il a sans doute des sujets plus réjouissants pour nous que les impôts, mais il faut bien en parler, mon cher Sofiane, excusez-nous. Hein.
Mais non, c'était passionnant.
Sofiane Aklou-Farif, on prend les manettes avec vous, avec Erwan Maurice. Quel est le programme de l'émission du jour, mon
frère ? Eh bien, dans un instant, on vous dévoilera les chiffres du chômage pour le premier trimestre 2024 de la DARES. Ce sera dans le journal de Stéphanie Collot et on parlera du podium des métiers les plus recherchés pour les employeurs. C'est toujours du côté de l'hôtellerie-restauration, hein, sans surprise. Au programme également, le préavis de grève levé par les contrôleurs aériens. Ont-ils raison d'agiter cette menace ? On en parlera. Et puis on parlera de discrimination au travail, sur l'orientation sexuelle. Étude publiée aujourd'hui sur l'intégration des LGBT+. Et là, de ce côté-là, il y a de bonnes nouvelles. Vous serez contente, Lorraine.
Avec vous, c'est à suivre dans moins de 3 minutes. On est en retard, mais j'en profite pour vous dire que même si Amorito Kedek n'est pas là, il y a BFM Crypto, le club, tout à l'heure à 15h pour continuer à suivre les actualités des cryptos et du Web3. C'est à 15h avec Guillaume Sommerer qui sera aux manettes. Le Bitcoin se traite autour de 63 577 $. L'intégralité de Tout pour investir est à trouver en podcast et en replay d'ici quelques secondes sur notre site et notre application. À demain.
Tout pour investir sur BFM Business.